Vous écoutez
RMC. Ils présentent la même émission, mais ils ne sont d'accord sur presque rien.
Midi 14h,
Brunet Neumann.
Salut les amis, écolo ou pas, c'est Laurent Neumann.
Salut les amis, écolo ou surtout pas, c'est Éric Brunet.
Alors je fais la liste, Grenoble, Besançon, Annecy, Tours, Poitiers, Colombes, Bordeaux, Strasbourg et Lyon. Lyon, oui mesdames, messieurs, toutes ces villes sont passées et entre les mains des écolos et peut-être demain Marseille. Marseille, elle est socialiste, hein, la candidate Michèle Rubérola, mais elle est dans une coalition,
et
tu as raison,
et presque
écolo.
Paris, parce que Paris on y est. Hein.
Et Paris c'est très écolo aussi. Et d'où la question que l'on vous pose, que l'on se pose Éric et moi depuis ce matin. Comment les Verts vont-ils diriger ces villes qu'ils ont gagnées ?
RMC,
l'avis d'Éric Brunet.
Ah ben pour moi, ça va pas très bien se passer. On a l'exemple de Grenoble. Est-ce que depuis que Éric Piolle est maire de Grenoble, la pollution a baissé à Grenoble ? Non. Est-ce que l'endettement des Grenoblois, qui est très élevé, a baissé à Grenoble ? La réponse est non.
RMC,
l'avis de Laurent Neumann.
Eh oui, mon petit Éric, sauf que Éric Piolle, les gens sont tellement mécontents qu'ils ont failli le réélire au premier tour et qu'il a été élu triomphalement au second. Deuxièmement, tu te trompes complètement d'analyse parce que tous les Verts qui ont gagné ces grandes villes, c'est pas du tout la ligne radicale façon Cormand ou Bayou chez les écolos, c'est la ligne de Yannick Jadot. Ouais, donc ce sont des pragmatiques en l'occurrence.
On en reparlera dans 6 mois.
Tiens, je te donne un
exemple. Les pragmatiques, on en reparlera dans 6 mois.
Je te donne un exemple. Bruno Bernard, le nouveau patron de la métropole lyonnaise, c'est un chef d'entreprise, il est millionnaire, tout va bien. Celui de Laval qui est à la tête d'une coalition écolo, il a fait HEC, Sciences Po, c'est un entrepreneur lui-même. Donc tu te trompes, voilà, les écolos qui ont gagné ne sont pas ces écolos radicaux d'extrême gauche. Et d'ailleurs, quand ils étaient avec l'extrême gauche, notamment à Toulouse, eh ben figure-toi qu'ils ont perdu.
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
Lisa Marie, est-ce que t'es écolo, toi ?
Est-ce que je suis écolo ? Je sais pas trop comment répondre à cette question.
Alors, je vais la poser autrement. Est-ce que tu es contente que les écolos aient gagné toutes ces villes ?
Il faut voir ce qu'ils vont faire, mais je pense que c'est... Ça insuffle un.
T'as voté,
chose de
toi,
nouveau.
À Toulouse ?
Non, moi j'étais inscrite à Toulouse, mais j'étais pas à Toulouse, j'avais pas fait ma procuration, donc j'avoue, je n'ai pas voté. Et depuis que je suis rentrée de l'étranger, c'est une catastrophe.
60% d'abstention, c'est Lisa Marie, tu vois.
60% d'abstention.
C'est vrai, c'est vrai.
Allez, dis-nous comment on vote.
Alors, on débat aujourd'hui dans Brunet Neumann de la vague verte au municipal, et on se pose la question des conséquences sur la gestion des communes. Comment les Verts vont-ils diriger les villes qu'ils ont gagnées ? Pour Laurent, très bien, pour Éric, très mal, vous l'avez entendu. Pour les départager et voter, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Éric et Laurent et la page Instagram RMC Off.
RMC Brunet Neumann
32-16.
Allez, on va directement au cœur du sujet. On est avec Laurent qui nous appelle de Bron dans la banlieue lyonnaise. Salut Laurent, bienvenue sur RMC.
Salut Laurent, salut Éric.
Salut
merci
Laurent.
De m'accueillir.
Alors toi, est-ce que tu es content de cette vague écolo ? Est-ce que tu penses qu'ils vont bien ou mal gérer les villes qu'ils ont gagnées ?
Alors écoutez, moi, vous voyez, j'avais pas entendu l'interview du nouveau maire de Lyon. Là, je viens de l'entendre pendant que je vous attendais, là, pendant que je patientais. Donc je faisais des bronds tout seul dans ma voiture. Hein,
ouais.
Quand j'entendais des forêts urbaines, de la végétalisation outrance, enfin des choses, c'est du délire quoi. Et puis pourquoi pas bientôt la charrette avec l'âne aussi, vous voyez, pour éviter de faire des émissions. Moi, je suis artisan taxi sur la région lyonnaise et d'ici septembre, ils vont nous mettre 77 km de pistes cyclables de partout. Pendant le confinement, ils nous ont mis des voies de bus à outrance de partout. Tous les boulevards qui roulaient bien, ça roule plus. Déjà, au premier abord, ça va être une catastrophe, à mon humble avis.
Ouais, le projet, j'imagine, pardon Eric, mais j'imagine que le projet à Lyon, c'est comme à Paris. C'est-à-dire qu'on limite la place de la voiture. Du coup, les taxis pourront mieux circuler. A priori, c'est pas mauvais pour toi.
Alors, moi, je vais pas avoir à me plaindre, personnellement, en tant que taxi. Nous, on peut se servir des voies de bus, etc., etc. Donc, c'est plutôt tranquille pour nous. Mais moi, je plains le Lyonnais moyen qui se sert de sa voiture régulièrement tous les jours pour aller au boulot, lui, il va souffrir. Mmh. Je vais donner un exemple. Par exemple, on avait à l'époque le boulevard des États-Unis qui était dans le 8e arrondissement de Lyon. Donc, c'était un boulevard qui, il y a une quinzaine d'années, roulait relativement bien, qui était relativement fluide. Bon, ils ont fini par mettre un tramway dessus. Donc, déjà, avec le tramway, ça s'avérait un peu plus compliqué pour circuler dessus. Et maintenant, c'était donc deux voies de chaque côté plus le tramway au milieu. Maintenant, il y a une voie de plus de chaque côté, plus une seule voie pour circuler. Et maintenant, c'est blindé de bouchons, ça roule plus.
Alors, il faut bien dire que ces candidats aux municipales qui ont été élus hier. Je pense à Grégory Doucet à Lyon, à Pierre Urmic à Bordeaux. Ils l'ont bien joué. Non mais attendez, on n'est pas du tout des dogmatiques. On n'est pas des idéologues d'extrême gauche. On est très très moderne. Écoute par exemple Grégory Doucet, le maire Europe Écologie, le nouveau maire de Lyon. Voilà ce qu'il dit.
Vous savez, investir dans la rénovation thermique des bâtiments, c'est de l'emploi local. Construire des transports en commun, c'est de l'emploi local aussi et c'est des commandes pour nos entreprises locales. Investir sur la piétonnisation, c'est faciliter le commerce de proximité. Donc non, l'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie, bien au contraire. Mais l'écologie vise à une économie responsable et vertueuse.
Ouais, alors j'adore ce discours bien démago. Regardez, nous sommes à la fois écologiques et on est pro entreprise.
Attends, démago, c'est toi qui le dis par
contre. Ouais, moi je trouve que c'est totalement démago. Totalement démago.
La rénovation thermique des bâtiments, ça crée des emplois locaux non délocalisables en plus. Donc c'est bon pour l'économie.
Les écolos, ils
Non mais réponds à ça.
Ma réponse est non.
Parce que
considérez que l'économie c'est bien. Que à partir du moment où tu fais des produits écologiques, c'est pas possible. Il y a aussi des gens qui fabriquent des écrans d'ordinateur. Il y a aussi des gens qui fabriquent des produits électroniques, qui fabriquent des tas de choses. Eux, ils ne pensent qu'à une chose, c'est les emplois verts, les emplois verts, les emplois verts, les emplois verts. Mais il y a des emplois qui sont bleus, rouges, oranges, gris, marron. Il y a toutes les couleurs d'emplois. Mais non, les écolos ne pensent qu'aux emplois verts. Et toutes les entreprises, les millions d'entreprises françaises qui n'ont aucun rapport avec l'environnement, l'écologie, la transition environnementale, il y en a plein. Et on fait quoi d'eux ?
Non mais t'as pas remarqué qu'il se passait quelque chose dans le monde ?
Non.
Non, il y a que toi. T'as pas remarqué qu'il y avait des manifs pour le climat, pour l'environnement. T'as pas remarqué que les entreprises du monde entier essayent de verdir leur discours. T'as pas remarqué qu'il y avait un problème avec les hydrocarbures. Ouais. T'as pas remarqué qu'il y a un problème avec la pollution de l'air, des générations d'enfants qui sont atteints d'asthme. T'as pas remarqué qu'il y avait un petit souci. Bah alors.
On est en avance au niveau des normes en avance sur tout le monde.
Toi qui dis toujours qu'il faut arrêter de voir l'État tout diriger d'en haut. Mmh. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on attaque l'écologie par le bas et par les territoires et par les villes. C'est exactement ce que toi tu prônes d'habitude. Tu dis laissez les maires faire. Mmh. La démocratie locale, il n'y a rien de plus important. Eh ben, les électeurs, ils ont voté. Ils veulent dans les villes où la vie est de plus en plus difficile, ils veulent des maires écolos et une politique écolo. Mais tu devrais être content.
Mais non, je suis pas content parce qu'à Paris, enfin, au quotidien, on en a une maire écolo. Elle est prise en otage, tout le monde le sait, Hidalgo, par des écolos ultra radicaux.
Mais moi qui suis.
Parle-en à Truchot des grandes gueules.
Mais moi
qui passe sa vie à dire que la ville est plus polluée aujourd'hui qu'avant.
Non, mais...
Le résultat est pitoyable. Les écolos ne sont pas efficaces. Ils n'ont pas la culture de l'efficacité, même dans leur truc à eux, qui est l'air. La qualité de l'air, ils sont mauvais parce que c'est pire après qu'avant quand ils arrivent au pouvoir.
Très bon argument. Mais en l'occurrence, à Paris, comme à Grenoble, et je suis bien obligé de le constater, qu'on soit pro ou anti-Hidalgo, au deuxième tour, elle est réélue avec quasiment la majorité absolue. Bah, et Piolle, oui. C'est un triomphe à Grenoble.
Ouais,
alors je sais pourquoi. Donc les gens sont contents.
Tu sais quoi ? C'est pas parce qu'il y a des auditeurs qui ont voté écolo que je vais me priver de leur dire qu'ils se sont mis le doigt dans l'œil, qu'ils ont mal voté, parce que les écolos ne sont pas des candidats
donc,
sérieux.
Pendant 6 ans, ils ont été abusés et ils demandent à en prendre pour 6 ans.
Je sais pas s'ils ont été abusés.
Je sais pas.
Honnêteté intellectuel, je te fais écouter quand même Pierre Urmic, qui est le nouveau maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux. Il a l'air pas mal quand même. J'ai vu sa tête hier sur un certain nombre de soirées électorales à la Téloche. Et j'avoue que le mec, il a une bonne tronche. Je le connaissais pas. Ça fait 25 000 municipales qui se prend une veste. Hein. Il a expliqué d'ailleurs.
Sa tronche, on s'en fout. Hein.
Non.
Ce qui est important, c'est ce qu'il va faire.
Ah, mais moi, je suis différent de toi. Moi, j'aime bien. Je peux me laisser séduire par le charisme, la chair de quelqu'un, et j'ai trouvé que ce mec avait une bonne tête. Bon, bref, c'est le nouveau maire écolo de Bordeaux, Pierre Urmic, écoutez-le.
Je suis un vert pragmatique. Comme tous les écologistes, on m'a enfermé dans une écologie punitive, sectaire, pendant toute la campagne. Et les Bordelaises et les Bordelais savent que je ne correspond pas du tout à cette caricature de Khmer vert qu'on a voulu nous accoler.
Il y a peut-être des mecs bien dans ces élus. Je te donne une petite info.
Vas-y.
Quand même. Parce que, voilà, c'est très bon exemple, Urmic à Bordeaux.
Ouais.
Ça fait des années qu'il fait des campagnes.
Oui.
En 2008, Figure-toi que Juppé lui a proposé de devenir son adjoint à la mairie de Bordeaux. Mmh. Alors si Urmic, c'était un type d'extrême gauche, un Khmer vert, un radical écologiste, voire un type totalement dingue qui ne connaît rien à l'économie, j'imagine que monsieur Alain Juppé ne lui aurait pas proposé de devenir adjoint à Bordeaux. Hein.
Je vais te répondre.
J'imagine.
Avant d'aller au 32-16, je vais te répondre. Je suis pas un dogmatique givré. Je peux entendre qu'il y a parmi tous ces élus verts des gens bien. Bien sûr, je suis pas en train de dire que tout ce qui est vert, tout ce qui est Europe, écologie, les verts, est indigne. Mais ton argument qui consiste à dire, regarde, il y a des élus qui ont fait Sciences Po, il y a des élus qui sont chefs d'entreprise, il y a des élus qui ont fait des écoles de commerce pour essayer de me vendre tes verts comme des types responsables, ça ne va pas. Je peux te dire que Mélenchon, PLISF, je peux te dire que François Ruffin, le député de la France Insoumise d'Amiens, super radical, a été dans une école catho, ouais, etc. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, ouais, il est
Eric,
plus communiste Eric, que les communistes.
Eric,
donc, voilà.
Eric, je t'arrête. Comme je sais que tu es un expert de la carte électorale et que tu as suivi ces élections municipales au centimètre près.
T'es cynique, là. T'es ironique, là.
Mais je suis très sérieux. Je sais que c'est vrai. Je te signale qu'à Besançon, Madame Anne Vigneault, qui est devenue maire écolo de la ville, elle a fait coalition sans la France Insoumise. Mmh. Je te rappelle que Monsieur Urmic à Bordeaux a fait coalition avec toute la gauche, sauf la France Insoumise. Mmh. Je te rappelle qu'à Strasbourg, Madame Jeanne Barseguian a fait coalition avec toute la gauche, sauf la France Insoumise. Et je vais aller plus loin. La ville que la gauche écologiste devait gagner, Toulouse, une ville de gauche. Ouais. Eh bien, parce qu'ils se sont alliés avec la France Insoumise et donc les plus radicaux de l'extrême gauche, ils ont perdu. Mmh. Voilà. Donc c'est le contraire de ce que tu dis.
Tant mieux pour eux.
C'est le contraire de ce que tu dis.
Écoute. Moi, je ne dis pas que c'est le contraire de ce que je dis. Je prétends, tiens, j'ai sous les yeux, regarde là, je te le montre. Reporter avec Terre, TE2RE. C'est le quotidien de l'écologie, c'est le quotidien des écolos. Hein. J'ai un exemplaire de Reporter, le quotidien de l'écologie, du 14 mai 2019. Ça commence par une grosse interview de Yannick Jadot, le patron des écolos, qui commence par Yannick Jadot, 2 points. Oui, je suis anticapitaliste. Est-ce que je l'invente, ça? Regarde, tiens, regarde là, il est en face de toi. Oui, je suis anticapitaliste. Ce sont des gens. Alors, il faut apporter des nuances. Je ne suis pas en train de dire que Jadot, c'est Brejnev ou c'est un soviétique. Hein. Ce n'est pas ce que je veux dire, ou un communiste. Mais loin s'en faut. Mais quand même, il y a une culture anti-entreprise. On voit bien chez ces gens-là.
Jadot fait partie de ces écologistes. Hein. Et ce n'est pas le plus radical, loin de là. Hein. Ce n'est pas la ligne Bayou, la ligne Cormand ou la ligne Cécile Duflot. Il fait partie de ces écolos qui considèrent que oui, les dérives du capitalisme, du capitalisme ou de l'ultralibéralisme, si tu préfères, causent des dégâts considérables à la planète. Ça fait pas de lui un type d'extrême gauche radical. On parlait de Grenoble il y a un instant.
Écoute, c'est intéressant. Jadot, il est allé dans une école de commerce, tu vois, je mets un son qui corrobore ce que tu dis, pour te dire que je suis pas un sectaire, moi, contrairement à toi, mon cher Laurent. Yannick Jadot, au mois de janvier cette année, est allé rendre visite à une école de commerce, justement, où il a redit ce que tu viens de dire.
Là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le libéralisme, ou l'ultralibéralisme, ce capitalisme financier, est allé tellement loin. Il marchandise chaque coin de la planète. Il marchandise chaque parcelle de notre vie privée. Et ben, en faisant ça, il ne crée plus de la démocratie, il crée de l'angoisse. Quand je me bats pour un Green Deal européen, c'est pour que justement on se donne la perspective d'un projet de civilisation. Le libéralisme, c'est pas un projet de civilisation.
Voilà, on peut être anti-capitaliste autant ne pas être anti-entreprise.
Non, mais c'est des âneries. Mais c'est-à-dire que les mecs, le projet des écolos, c'est changer la civilisation quand même. C'est pas anodin. Ça veut dire que on ne va plus vendre. Par exemple, quand un enfant voudra acheter des glaces à Lyon, il faudra lui donner la glace. Enfin, c'est quoi? Mais il est contre l'économie de marché. Il est contre le capitalisme. Il dit aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde n'est pas un projet de civilisation. Nous allons le changer. Mais il va mettre quoi à la place de ce qu'il appelle la marchandisation? Il va mettre quoi à la place des transactions?
Un capitalisme qui respecte l'environnement.
C'est pas ce qu'il dit.
Je suis
désolé, on a l'impression qu'il veut mettre fin à la libre concurrence.
Non, mais ça, c'était fantasmatoire, cauchemar personnel. Écoute, tu sais quoi, il y a Nicolas qui nous appelle de Grenoble, on peut peut-être aller voir comment ça se passe à Grenoble.
Très bien.
Allez, c'est parti.
RMC, Brunet-Neumann,
32-16.
Salut Nicolas, bienvenue sur RMC.
Salut Nicolas.
Salut Laurent, salut Eric.
Bon, qu'est-ce que tu fais à Grenoble?
Je viens de
Qu'est-ce que
moi, j'avais appelé il y a quelques temps pour alerter concernant l'autoroute à vélo qu'avait mis en place Eric Piolle.
Ah oui, je me souviens très bien.
Tu
étais assez critique justement sur ce maire écologiste de Grenoble qui a été élu il y a 6 ans aux dernières municipales et qui était jusqu'à présent, jusqu'hier, le seul maire écologiste d'une grande ville de France. Voilà. Et qui a été. Alors Laurent a raison, il a été réélu triomphalement à Grenoble. Hein.
Oui, mais ce qu'on peut dire là-dessus, d'ailleurs, Laurent, je voulais t'en parler. Moi, je trouve qu'il y a un grand parallèle entre Paris et Grenoble. C'est un petit peu le même profil de au niveau de la mairie, c'est-à-dire qu'on a des gens qui votent qui sont à l'intérieur d'une petite ville qui est Grenoble, hein, puisqu'en fait, c'est 160 000 habitants de Grenoble, et c'est vraiment le centre-ville. Mais la banlieue de Grenoble, c'est 450 000 habitants, et c'est des gens qui roulent et qui vont au travail souvent en voiture.
Oui.
Donc en fait, le gros problème, c'est que les gens qui votent, c'est vraiment des gens qui sont un petit peu privilégiés, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller au boulot en vélo et qui sont pas obligés de prendre leur voiture.
Écoute,
je
vais te faire écouter un truc. Non, je te repasse la parole, Laurent. Il fait la tête là. Laurent, je te repasse la parole, promis. Je veux juste te faire écouter ce que disait un célèbre agriculteur, une grande gueule, il est éleveur, il s'appelle Didier Giraud, et il y a une demi-heure chez les GG, il y avait justement Yannick Jadot, qui était l'invité de Truchot et Marshall sur RMC. Et Didier Giraud, grande gueule, était là, autour de la table, il s'est un peu énervé contre le patron d'Europe Écologie des Verts. Et si je te passe ce son, Nicolas de Grenoble, c'est parce qu'il dit un peu ce que tu dis. Il dit finalement, qui a voté écolo, voilà, c'est les bobos des villes, écoute.
Finalement, c'est quelques centres-villes qui avaient besoin de baisser de 3 degrés la température et puis d'arrêter de prendre la bagnole et de faire un peu de tramway gratos. Voilà, voilà comment vous avez créé une vague. Mais concrètement, moi, ce que j'attends de vous, et je vous attendrai au tournant, c'est qu'est-ce qui va changer en matière d'offres publiques pour les cantines ?
Ah oui.
C'est quoi le plan de relocalisation de l'agriculture autour des grandes villes ?
Ah non, mais moi je peux te confirmer que ce que dit Monsieur Giraud est parfaitement juste et ce que dit Patrick à Grenoble est Nicolas à Grenoble est parfaitement juste. Ouais. J'ai un de mes meilleurs amis qui habitait en banlieue. Et puis il a décidé
en
lui
d'où parisienne.
Parisienne, pardon. Ouais. Il habitait sur les bords de Marne, du côté de Joinville, tu vois.
Ouais.
Il a décidé de venir habiter dans Paris.
Mmh.
Il a donc vendu une maison avec un jardin pour acheter un appartement plus petit dans le centre de Paris. Quand il était à Joinville-le-Pont, il trouvait la politique d'Anne Hidalgo absolument scandaleuse.
Mmh.
Et je l'entends, et je pense que tous les gens de banlieue pensent la même chose.
Et quand il est
qu'il est à Paris, il a fait changer sa carte électorale, il est allé voter, et s'il avait pu voter 10 fois pour Hidalgo, il aurait voté 10 fois pour Hidalgo. Parce que pour les habitants de Paris intramuros, c'est pas si mal que ça.
Nicolas.
Laurent, si je peux parler.
Oui, bien sûr.
Ce que je voudrais dire, moi, c'est que l'objectif de je pense que tout le monde l'a compris maintenant. Hein. On a tous un objectif de c'est vrai que la pollution soit moins importante, que le réchauffement climatique soit combattu, etc. Ça c'est quelque chose que tout le monde veut, je pense. Mais le gros problème, en fait, c'est un problème de méthode. C'est une méthode qui est autoritaire, qui est dogmatique. Hein, parce que, très sincèrement, l'autoroute à vélo, tel qu'il a été mis en place, moi, j'étais contre au départ.
C'est quoi l'autoroute à vélo exactement de Grenoble ?
C'est une avenue, si tu veux, qui s'appelle l'avenue Agut-Samba, qui relie Mélan à Saint-Évrard, pour faire court. Hein.
Mm.
C'est les deux banlieues, si tu veux, où les clients à fort potentiel d'achat peuvent venir se voir.
Mm.
Et donc, en fait, on nous a coupé de ces deux axes de circulation et de ces deux flux de clientèle. Hein. Moi, j'ai deux commerces à Grenoble. Je sais pas si je peux dire les enseignes, c'est les Alpes, des majuscules. Eh bien, c'est de la papeterie, de loisirs créatifs. Eh bien, c'est vrai qu'on a vraiment une grosse clientèle sur Mélan qui vient souvent pour acheter ses produits. Et on nous a coupé complètement le flux de clientèle.
Ouais.
Et c'est terrible.
Mais Nicolas,
simplement,
c'est
vraiment... Je peux aller jusqu'au bout.
Vas-y. Parle bien devant ton téléphone parce que c'est dur, on t'entend très mal. Hein, alors, mets-toi devant.
Une fois que ça a été fait, je me suis dit, bon, on va regarder. Moi, je suis tout à fait pour que ça marche, finalement. Si c'est plein de vélos, plein de trottinettes, plein de, voilà, véhicules comme ça qui permettent d'améliorer la fluidité de circulation, etc., c'est très bien. Or, chaque fois que tous les matins je passe, hein, je croise l'avenue Agut-Samba, et tous les matins, qu'est-ce que je vois ? Bah de temps en temps, pas de vélo. De temps en temps, un cycliste au loin, deux cyclistes. Et dans l'avenue, dans la rue de la Lillière, qui est la rue qui croise l'avenue avec Gutenberg, des bouchons. Et des vélos.
Mais c'est vrai que tu as raison sur un point, ça ressemble à Paris. Moi, en bas de chez moi, à Paris, il y a une double voie cycliste, dans un sens puis dans l'autre. Voilà, c'est le gag. Souvent, depuis mon balcon, je la regarde. C'est à hurler de rire. Tu peux passer une heure et demie, sans voir un seul vélo.
Il y a quelque chose que vous ne prenez pas en compte, Nicolas Grenoble et toi, Eric. C'est que vous êtes contre l'idée que l'État impose tout d'en haut. Donc, l'écologie, en réalité, elle doit commencer à se faire par le bas, par les territoires.
Mais s'il n'y a pas eu de concertation, si Éric Piolle n'a pas concerté sur son projet d'autoroute du vélo à Grenoble.
Mais j'ai la réponse à ce que tu viens de dire. Ah, il a été réélu triomphalement. Ouais, alors, ça vaut tous les référendums.
Avec l'abstention et tout, il a dû avoir 15% des inscrits.
Ah bah oui, mais alors l'abstention, je te signale que ça marche dans tous les sens.
Mais t'as raison.
Ça marche pour la droite, pour la gauche, pour le centre, pour le Rassemblement national et donc pour les Verts. Donc, c'est vrai pour tout le monde. Je note, moi, qu'il y avait une contestation absolument énorme à Paris contre Anne Hidalgo. Je suis bien obligé de constater qu'à l'arrivée, elle est quasiment en majorité absolue au second tour. Voilà, comme ça. Ça plaît, ça déplaît, peu importe. Oui, les Parisiens, ils sont coupés en deux. Mais n'empêche qu'elle est réélue et très, 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 très largement. Oui. Bah, Piolle, c'est pareil à Grenoble. Et j'imagine Besançon, à Annecy, à Tours, Poitiers, Colombes, Bordeaux, la ville de Juppé. Oui. La ville qui est toujours restée à droite depuis 73 ans.
Laurent,
il doit y avoir une raison.
Il y a des écolos de droite. Il y a des gens qui votent écolo parce qu'ils ont envie d'avoir un peu
plus. Ah, des électeurs écolos, tu veux dire. Mais je pense même qu'il y avait beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron qui ont voté écolo.
Peut-être.
Bah oui.
Qui veulent de l'herbe, qui veulent des arbres, qui veulent des petits oiseaux qui font cuit-cuit. Ils ont bien raison.
Une vie meilleure en centre-ville.
Mais qui ignorent sans doute qu'en mettant un ticket sur un écolo, ils vont avoir autre chose. Ils vont pas avoir que ça. Ils vont avoir derrière un discours sous-jacent sur l'entreprise et l'économie qui ne correspond peut-être pas à ce que ces électeurs
voulaient.
Donc
en fait, pour nous départager, il faut qu'on revienne ici à ce micro dans 6 ans. Quoi. On verra si tous ces maires sont réélus ou pas, comme Piolle à Grenoble. Allez les amis, vous continuez à nous appeler au 32-16. On va remercier Nicolas qui nous appelait de Grenoble. Tiens, on ira dans l'Hérault. Il y a Patrick qui nous attend. Vous êtes très nombreux déjà à nous appeler.
Un Hérault incroyable à Montpellier, hein, où pratiquement deux socialistes se sont affrontés.
Absolument. Pro-écolo comme moi ou anti-écolo comme Eric? Vous nous appelez et Brunet Neumann. Nous, on revient dans un instant sur RMC.
Midi 14h.
Brunet Neumann.
Éric Brunet.
Laurent Neumann.
Comment les Verts vont diriger les villes qu'ils ont gagnées? Elles sont nombreuses, ces villes. Besançon, Annecy, Tours, Poitiers, Colombes, Bordeaux, Strasbourg et même Lyon. Lyon, la ville, et Lyon, et Poitiers, la métropole. Et Poitiers, je n'ai pas cité Poitiers. Poitiers, bien sûr, où Léonore Monconduit l'a emporté, une très très jeune maire, qui a gagné haut la main cette
fort
cette
fort jolie.
Ah bah ça, c'est, j'avoue que je ne l'ai
si,
pas
j'ai,
vu.
J'ai découvert son visage. Tous ces gens-là, on découvre leur visage. C'est une jeune femme qui est fort jolie.
T'aurais envie de devenir écolo, là?
Non, mais elle est fort jolie.
Mais si, t'as dit Kurmi qu'il avait une bonne tête à Bordeaux.
Oui, il est sympa. Je suis pas dans la. Voilà, je veux pas les démoniser.
Bon, très sérieusement, Eric, on est avec Julien Bayou, le secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts. D'abord, avant de commenter les résultats des municipales, un mot sur ce que vient d'annoncer Emmanuel Macron. Il prend 146 des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. J'imagine,
146 sur 149.
J'imagine que pour une fois, vous allez déboucher le champagne, non?
Ouais.
Mais oui, c'est bonjour. C'est
bonjour.
Écoutez, sur le principe, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, on a ce vieil adage qui dit que voter pour les écolos, c'est voter deux fois. Une fois pour mettre aux manettes des personnes exigeantes sur l'écologie, c'est le cas de Pierre Urmic ou de Léonore Mauconduit, dont vous avez salué l'élection, et une autre fois pour contraindre les autres à s'y mettre. Et j'ai le sentiment que le vote historique d'hier sur l'écologie, je pense, a dû amener le président à bouger. Donc, sur le principe, et si les discours sont traduits en actes, alors dans ce cas-là, oui, c'est une très bonne nouvelle pour l'écologie, mais pour le pays en vérité, parce que ce sont des créations d'emplois, c'est du bien-être, c'est de la justice sociale. Maintenant, je vais être sincère avec vous, il n'y a pas beaucoup de monde dans ce pays qui peut encore avoir confiance dans Emmanuel Macron. Et après le Grenelle de l'environnement de Nicolas Sarkozy, on sait que finalement ça avait accouché d'une souris.
D'accord.
Donc nous, avant de sabrer le champagne, comme vous dites, champagne bio, évidemment, moi j'attends d'en savoir plus sur véritablement, au-delà des discours, qu'est-ce qui est concret.
Julien Bayou,
c'est beaucoup, hein, comme, pardon, mais les 146 mesures proposées.
Il a mis de côté le débat sur les 110 km/h sur autoroute
et l'attaque
sur les dividendes.
Je prends un exemple, si vous voulez, il y a un exemple qui nous tient à cœur, c'est la question des passoires thermiques, c'est-à-dire les endroits où c'est tellement mal isolé que vous chauffez complètement à dépenses perdues, vous chauffez les pigeons, si vous voulez. Oui. C'est les plus vulnérables qui sont dans cette situation, ils dépensent un fric fou pour se chauffer. Oui. Et l'été, ils crèvent de chaleur parce que c'est pareil, c'est mal isolé. Ça, c'était déjà une promesse d'Emmanuel Macron, de s'attaquer à la moitié de ces passoires thermiques. 4 millions de logements, c'est de l'emploi local pour les petites entreprises de BTP sur tous les territoires. C'est non délocalisable, c'est vraiment gagnant. Ça lutte contre le dérèglement climatique, ça soulage les porte-monnaies. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait? Donc c'était déjà dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est plébiscité par toutes les associations environnementales et bien sûr sur les questions de mal logement. Tout le monde est pour et ça n'avance pas. Ouais. Donc là, évidemment, il dit qu'il va le faire. Vous comprenez que nous restons vigilants.
Julien Bayou, qu'est-ce que vous répondez à Éric Brunet? Moi, j'ai du mal à argumenter, mais vous allez peut-être m'aider. Lui, il dit tous ces nouveaux maires écolos, c'est d'abord des élus d'extrême gauche. Ils ignorent tout de l'économie. Ils sont pas très business friendly. Ils sont plutôt décroissants. Et j'ai peur que ça se termine mal à la tête de ces mairies. Vous lui répondez quoi?
Écoutez, c'est bien gentil de donner des leçons. En même temps, les personnes qui, pour l'instant, ont géré ces villes n'ont pas fait preuve de résultats géniaux. Je pense que la ville de Marseille, si c'est ça, gérer la ville et d'être rigoureux sur l'économie, je pense qu'effectivement, pour tourner la page. Vous savez qu'à Grenoble, Éric Piolle a réussi un excellent bilan et pourtant, il doit faire face à la dette monstrueuse léguée par Alain Carignon et tout le clientélisme. Donc, les leçons sur l'économie et les leçons de gestion, excusez-moi, mais on s'en passe. Et je vous invite surtout à découvrir ces personnages parce que Bruno Bernard, qui est aujourd'hui président de la métropole de Lyon, c'est un chef d'entreprise. Et lui, ses entreprises n'ont pas fait faillite. C'est un chef d'entreprise et qui voit au-delà, vous savez, de ce qu'on appelle les éléphants blancs, ces élus qui veulent absolument construire des grands trucs, des grands machins qui ne servent à rien, alors que nous, nos élus, souhaitent ce qui est bon pour le territoire et bon pour l'emploi local. Encore à nouveau, la rénovation thermique, par exemple, c'est des emplois locaux et non délocalisables, plutôt que ces centres commerciaux dont pas mal de maires s'étaient fait une spécialité. Et en fait, on se rend compte, mais on le savait, que plus vous avez d'emplois dans ces centres commerciaux, moins vous en avez dans les centres-villes, et c'est ainsi que nos villes meurent. Donc vous voyez, il y a toute une vision, et c'est pas une question d'extrême gauche ou d'extrême droite ou quoi que ce soit, c'est qu'est-ce qui est utile pour nos territoires. Et nous disons, la transition écologique dans la justice sociale, voilà un projet. Et je vous invite vraiment à aller découvrir ces nouveaux visages. Jeanne Barzéguian à Strasbourg, Léonore Mauconduit à Poitiers, Anne Vigneault à Besançon, Pierre Urmic à Bordeaux. Et vous verrez, je pense que vous serez rassurés, c'est des personnes qui ont les pieds sur terre, en fait.
Rassurez, comprenez-nous aussi. Moi, j'ai sous les yeux la couverture du magazine Reporter, le quotidien de l'écologie, avec Yannick Jadot, c'est le titre. Oui, je suis anticapitaliste. Je me souviens de Karima Deli et de ses piques contre l'écologie.
Et de Julien Bayou. Voilà,
et de vous. Donc, c'est vrai que moi, je me méfie beaucoup de ce discours qui dit, en gros, ouais, mais attention, l'économie, c'est bien. Si c'est l'économie verte, ça va générer... 500 milliards de profits et je ne sais quoi, et beaucoup d'emplois. Oui, très bien, mais enfin, il n'y a pas que l'économie verte. L'économie, c'est quelque chose de compliqué. On n'attend pas des verts qu'ils changent de modèle civilisationnel. Ou alors, je suis inquiet parce que je ne veux pas qu'on retourne au troc. J'adore l'économie de marché, ça me va bien.
Écoutez-moi, soyez pas inquiet, comme disait l'autre, entrez dans l'espérance. L'enjeu, c'est de changer de modèle. Notre modèle.
Bayou, c'est le pape Jean-Paul II.
Et tout à fait. Merci. Non, notre modèle, c'est bien de changer de voie. Vous voyez bien que quand on dit produire toujours plus pour de la croissance, c'est quoi la réalité? C'est qu'en fait, cette croissance, elle produit des inégalités. Les fruits de cette croissance, le fruit de ce travail de vous et moi, des salariés, de ceux et celles qui prennent des risques pour entreprendre, en fait, il est capté par une infime minorité. On le sait, c'est attesté par les rapports d'Oxfam. Et donc l'enjeu, c'est bien de prendre un virage et de choisir ce qui est utile au territoire. Vous voyez, c'est très concret, l'écologie. C'est réduire la place de la voiture en ville pour que les personnes, les piétons, les vélos, puissent se déplacer correctement. Il se trouve que ça réduit aussi la pollution et le bruit de nuisances sanitaires. Ouais, et ce n'est pas mauvais pour l'économie, bien au contraire.
Vous voyez, vous ne pouvez pas vous empêcher de citer Oxfam, cette association dont on peut contester beaucoup de choses, y compris d'ailleurs les études qu'elles font sur la soi-disant augmentation des inégalités en France, qui est à mon avis très contestable. Voilà, donc qui est vraiment la référence absolue de la France insoumise. D'ailleurs, Manon Aubry en vient de chez Oxfam, la chef de file de la France insoumise aux dernières européennes.
Mais
on est dans le discours anticapitaliste basique de la gauche radicale. Vous n'aimez pas extrême gauche, bon, de la gauche radicale, c'est vrai. Là, vous y replongez après m'avoir dit que finalement vous n'aviez rien à voir avec cela.
Non, écoutez-moi, monsieur, si vous n'entendez pas qu'il y a dans ce pays une exigence de justice sociale et que le fait de travailler puisse se conduire à être payé décemment, si ça vous l'entendez pas. Moi, je peux plus rien faire pour vous.
Mais la France est le pays le plus redistributif du monde.
C'est
pas parfait. Mais c'est le pays le plus redistributif du monde, la France. C'est pas parfait. Attention, hein. Mais bon.
Parce que vous prenez en compte les retraites. Et bien sûr, si on prend en compte les retraites en Allemagne, ils fonctionnent différemment. C'est pas les mêmes standards. Moi, j'insiste. Il y a dans ce pays une exigence de justice sociale qui monte, notamment des gilets jaunes, une exigence d'action contre le dérèglement climatique, ce sont les mobilisations climat, et il y a beaucoup d'autres mobilisations qui indiquent que notre pays est dans une impasse. C'est toute l'erreur d'Emmanuel Macron qui a braqué et brusqué le pays, là où nous voulons apaiser le pays et le mettre sur la voie d'un projet pour le XXIe siècle. Il ne s'agit pas de faire du passé table rase, ce sont des transitions et on doit accompagner. Et clairement, cette transition écologique, elle est génératrice d'emplois. Ça, c'est indéniable. Il y a plus d'énergie dans les renouvelables que dans le nucléaire. Il y a plus d'emplois, dans l'agriculture biologique que dans l'agriculture conventionnelle. Il y a plus d'emplois dans le fait de recycler et réutiliser les déchets plutôt que simplement les incinérer.
Merci.
Et ça, c'est bon pour la planète. Ouais. Pourquoi s'abstenir ?
Merci Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il m'a un peu aidé quand même, hein. Il t'a un peu renvoyé dans les cordes. Sur la gestion des villes qui n'étaient pas écolo comme Marseille et Grenoble. C'est vrai que Piolle à Grenoble, ah oui, on peut dire que c'est une des villes les plus endettées
de France. Mais il a été réélu.
La dette qu'on lui a laissée avant, la gestion d'avant, était absolument colossale. Allez, on va remercier Julien Bayou.
Tu sais quoi, on attend de voir la gestion de ces grandes villes par les écologistes. On verra les écologistes à Marseille. De toute façon, une réélection, c'est pas un gage de qualité. Regarde, Anne Hidalgo est réélue à Paris. Pour autant, son bilan n'est pas satisfaisant.
Son bilan est satisfaisant. Toi, t'as vendu ta voiture.
Non.
Tu vois, elle a plus de gains de cause.
Non, attends. 7 milliards d'endettement pour ces pauvres Parisiens, c'est du délire. 7 milliards.
Allez, on va au 32-16.
RMC, Brunet-Neumann.
32-16.
Et je vous avais promis qu'on allait dans l'Hérault. On est avec Patrick. Salut Patrick, bienvenue sur RMC.
Salut Patrick.
Salut Laurent, salut Eric.
Alors toi, tu en penses quoi ? Tu es plutôt Brunet ou plutôt Neumann sur l'écologie ?
Moi, je suis plutôt Brunet. Je pense vraiment que derrière les écolos, il y a des gens dangereux. Mais c'est pas trop là-dessus. Moi, je voulais un peu donner une explication du phénomène qui se passe dans les villes. Pourquoi tout le monde gueule que les villes, ça va pas ? Et pourquoi les gens sont réélus ? Et à mon avis, seront encore réélus. C'est qu'il y a une évolution sociologique des villes. Historiquement, les villes, c'était des endroits où les hommes se réunissaient. C'était un endroit où il y avait du monde, où ça puait, où il y avait la pollution, parce qu'il y avait de l'activité commerciale, politique. C'était des lieux d'activité. Et pendant longtemps, les gens qui avaient cette activité habitaient dans la ville. Et le premier truc qu'ils faisaient, c'est le week-end se barrer dans leur résidence secondaire. Et puis dès qu'ils avaient terminé leur activité, ils se barraient de la ville pour aller à la campagne, parce que c'était plus sympa. Mais depuis quelque temps, on a deux types d'utilisateurs des villes. Il y a les habitants. Et il y a les gens qui ont leur activité. Et ce n'est pas du tout les mêmes.
Ah, ça, c'est donc, très juste. Très, très juste.
Donc, effectivement, les habitants, eux, ils veulent, comme Alphonse Allais, mettre la campagne à la ville. Je crois que c'était l'inverse pour Alphonse Allais. Donc, ils veulent transformer la ville en un lieu de quiétude, où ça sent bon, où il y a de la verdure, où il y a des vélos. Mais c'est complètement antinomique avec l'activité économique qui est pratiquée par l'autre catégorie d'utilisateurs qui, elles, n'habitent pas la ville. Or, ceux qui votent, c'est ceux qui habitent.
Eh oui.
Donc, on a un énorme problème du rôle de la ville dans la société humaine.
Mmh. Non, mais c'est un argument que je fais mien totalement. Tu vois, je pense que t'es plutôt de l'avis d'Éric. Mais pour le coup, cet argument-là, il est très, très juste. Je prenais tout à l'heure l'exemple d'un de mes amis qui habitait en banlieue. Avant, il vomissait à Anne Hidalgo. Il habitait dans la banlieue de Paris. Pour lui, la politique menée à Paris était catastrophique pour sa vie quotidienne. Depuis qu'il habite dans le centre de Paris, il vote Hidalgo au premier, deuxième tour et il votera Hidalgo jusqu'à la fin de ses jours.
Tu l'as pas inventé, ce copain.
Non, je vais pas te donner son nom.
Balance.
Non. Bon, il s'appelle Philippe, mais je m'arrêterai là. Voilà.
Et le problème, c'est l'avenir des villes. Moi, j'habite à côté de Montpellier. Bon, Montpellier, mais je n'y vais plus jamais. Les banlieusards, les gens comme moi qui habitent à la campagne et compagnie, ils se sentent complètement rejetés des villes. Donc, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, ces villes, quand on voit les grandes artères semi-piétonnes, tramways, qui sont vides, comme disait Eric, il y a 3 vélos qui passent à l'heure. Les magasins autour, c'est les magasins de luxe, c'est du Nespresso, c'est du Chanel, c'est des trucs parce que les loyers sont très chers, parce que... Et à un moment, on commence à entendre des habitants des villes qui disent, mais attendez, la ville que j'aime bien, moi, avec les petites rues tordues, avec les petits restos, la petite activité, je l'ai plus. Bah, évidemment, ils ont tout fait pour sortir cette activité. Donc, l'avenir de la ville, moi, je suis là, j'aime pas la ville, donc je m'en fiche un peu. Mais je pense que les gens qui aiment la ville, quand on va se projeter dans 20 ans, dans 30 ans, on va avoir des centres-villes à l'américaine, des downtown qui sont vides, qui sont insécures. Beaucoup de centres-villes sont déjà insécures, et Montpellier en est un exemple terrible. Je crois que ce changement sociologique, qui, au lieu que ce soit un lieu de vie, d'activité, d'activité humaine, est un lieu de villégiature et de soi-disant tranquillité.
Ouais.
D'ailleurs, je suis assez inquiet pour la ville.
D'ailleurs, et tout à l'heure, on posera la question à nos prochains invités. Que feront les écolos en matière de sécurité? Moi, c'est un sujet qui me traumatise. Parce que quand on écoute aujourd'hui sur les questions de sécurité des villes, d'insécurité, les élus écolos, ça fout la trouille.
Tiens, Truchot, il s'est fait voler son vélo, dis donc. Vélo électrique, hop, on lui avait volé son vélo.
Ouais.
En plus, c'était pas le sien, par exemple.
Ouais,
voilà. Il avait emprunté un copain.
Il le récupérera jamais, il récupérera jamais rien. Voilà, maintenant, un vélo, tu portes même plus plainte.
Comme quoi, l'environnement, ça n'empêche pas de traiter aussi les questions de sécurité, hein, notamment à Paris et dans les grandes villes.
Parlez-en aux élus écolos, là. La sécurité, c'est vulgaire pour un élu écolo. Hein. Oh, la sécurité, c'est pour le Rassemblement National qui exploite cette thématique. Mon Dieu, ne me parlez pas.
J'aime avec toi, c'est quand t'es caricatural.
Mais quoi, tu crois? Tu connais beaucoup d'élus écolos qui disent il faut armer notre police municipale. T'en connais beaucoup qui font ça? Qui disent
armer la police pour empêcher les vols de vélo.
Alors très bien, il faut recruter davantage de policiers municipaux pour la sécurité des administrés. T'en connais beaucoup? Moi, j'en connais pas.
Eh ben, on posera la question dans quelques instants à Gilles qui nous attend. Il habite à Lyon et il a voté pour les Verts en plus. Et on va remercier Patrick qui nous appelait de l'Hérault. Et vous, les amis, vous continuez aussi à nous appeler au 32-16 pour ou contre ces maires écolos. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
Bon, l'écologie, ça fait partie des sujets bien, bien clivants, mon petit Eric. Il y a plein de messages, hein, Lisa.
Ouais, absolument, de très, très nombreux messages. J'en ai sélectionné quelques-uns. D'abord, Christophe, qui n'est d'accord avec aucun de vous deux aujourd'hui.
Ah.
Il dit, il est impossible de savoir comment ils vont faire. Chaque maire va devoir s'adapter aux spécificités locales et va souvent devoir composer, à voir ce que ça va donner. Mais ne jugeons pas par avance.
C'est ce qui est arrivé en Allemagne. Hein. Quand les Verts sont arrivés, les Grünen, eux aussi, ils se sont mis à diriger des exécutifs locaux et ils se sont adaptés. Tiens, finalement, ils ont défendu le nucléaire. C'est intéressant. Enfin, ils se sont battus contre le nucléaire. À l'arrivée, ils défendaient les centrales à charbon. Donc, ils s'adaptent. Mais forcément, tout le monde s'adapte.
Une réaction d'Anne-Claire sur Facebook. Les Verts, c'est comme des pastèques. Vert à l'extérieur, mais rouge à l'intérieur. Évidemment qu'ils vont endetter leur ville, nous dit donc Anne-Claire.
Ça, c'est la grande phrase de Jean-Marie Le Pen. Que
je ne sais pas si c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a dite, mais si c'est lui, je suis désolé, il avait raison.
Ouais. Bah non. Jadot, c'est pas un communiste.
Midi 14h. Brunet Neumann.
Eh oui, on parle des Verts, évidemment, la liste est longue, hein, de ces grandes villes que les écologistes ont raflées au nez et à la barbe de la droite, de la gauche, de la République en marche. Alors je citais Besançon, Annecy, Tours, Poitiers, Colombes, Lyon, la ville et la métropole, Bordeaux, 73 ans à droite, boum, Urmic prend la place de Juppé, hein. c'était Florian qui était le maire, mais c'est incroyable la liste de ces villes. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces maires écolos vont bien ou mal gérer ces villes? Eric pense qu'ils vont mal les gérer, moi je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne les gèrent pas bien. Je suis sûr que ça va être très très bien. Ce serait peut-être le moment de faire un petit tour du côté de Lisa Marie pour savoir comment vous votez.
Eh bien, pour le
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
Et bien, pour le. Je me suis souvent avoir par le petit jingle.
Je me suis fait avoir par le jingle, j'ai parlé sur le jingle, excusez-moi.
Alors, à chaque fois, on va lui taxer quoi, 1 euro. Il faut
Ah bah, il va pas me rester
juste la tendance.
Alors, pour le moment, vous êtes 75% d'accord avec Eric.
Allez, on va au 32-16.
RMC, Brunet Neumann.
32-16.
Et c'est Gilles, comme prévu, qui nous appelle de Lyon et qui a voté pour les Verts. Salut Gilles.
Salut Gilles.
Oui, bonjour.
Bon, alors,
qu'est-ce que tu en penses, toi?
Donc, t'as entendu le projet, Lyon, on va faire des forêts urbaines, ça va être formidable, que ça va être l'Amazonie. Grâce à ton nouveau maire, Grégory Doucet, Lyon va devenir l'Amazonie et le Rhône va devenir le fleuve Amazon.
T'as pas honte de dire
le fleuve Amazon, ouais, avec des Indiens, etc.
Ouais,
formidable.
Éric Brunet, vous savez pas, le maire précédent de droite, de gauche, on sait pas trop, de La République En Marche, lui, il avait déjà créé une plaine africaine en Lyon.
C'est vrai?
Voilà. Oui, avec des girafes, c'est au parc de la Tête d'Or.
Ah oui, au parc de la Tête d'Or.
En plein Lyon, d'accord, ouais. Premièrement. Deuxièmement, juste avant de parler de ce pourquoi j'appelais, je voulais faire une petite parenthèse pour répondre au chauffeur de taxi de Bron qui a appelé tout à l'heure et qui parlait de charrettes tirées par des ânes. Eh bien, je voulais dire que moi, oui, je suis partisan de la réintroduction du cheval en ville, comme ça existe à New York, à Berlin ou à Dakar, pour faire plaisir à Éric Brunet.
Ouais. Et à Paris, garde républicaine, à Paris, maintien de l'ordre avec des chevaux. Oui,
enfin, on ne se déplace pas à cheval, racontez pas n'importe quoi.
On peut faire de la police municipale à cheval, ça existe. On peut faire du transport.
Enfin, je te signale, Gilles, que les écolos sont contre le retour de la carriole. Ils suggèrent même que les touristes arrêtent de se promener en carriole tirée par des chevaux.
Je l'ai vu nulle part. Pourtant, moi, je lis la littérature écolo depuis longtemps. J'ai jamais lu ça. Mais bon, ça fait rien. Maintenant, pour répondre à la question...
C'est les défenseurs de la cause animale qui souvent sont écolos. Oui,
ça, c'est un peu autre chose. D'accord.
Viens-en au cœur de ton intervention, ce que nous dire.
Oui, je veux dire que les Verts pourront peut-être réussir à faire des choses bien là où ils ont été élus, à condition qu'ils n'oublient pas leur promesse de premier tour. Et parmi celles-ci, il y a écrit, là je l'ai sous les yeux, nos mesures clés pour Lyon, une démocratie vivante et il y a référendums locaux et référendums d'initiative citoyenne. Et ça n'a pas été réécrit dans les documents de second tour. Je m'en suis plaint, d'ailleurs. Mais effectivement, s'ils respectent leurs engagements, leurs promesses de premier tour, peut-être pourront-ils faire des choses.
C'est pour ça, Gilles, que toi, t'as voté vert au premier ou au deuxième tour?
Ça s'entend.
Au premier tour, j'ai pas voté parce que j'étais pas à Lyon. J'étais bloqué à Besançon. Mais oui, j'ai voté pour ça, principalement pour les référendums. Et parce que le maire précédent, il a brutalisé la ville. Il a fait des tas de choses gigantesques qui ont radicalement transformé, défiguré la ville, sans jamais nous consulter.
Moi, je suis assez d'accord. J'aime bien ton approche, aussi bien au niveau de la tentation référendaire à la Suisse. Moi, j'adore ça.
Et
la deuxième chose, c'est qu'on en a marre des grandes cosmogonies, des grandes réalisations. Cosmogonie, tu m'as compris, c'est ces trucs, ça part du mot cosmos, c'est un cosmo, la cosmogonie,
oui,
c'est
le gigantisme.
Le gigantisme, oui. Voilà. Et c'est vrai que souvent, l'élu, un peu comme le président de la République sur le plan national, il bâtit un immense immeuble, un bâtiment, un musée, etc. Mais on s'en fout. Nous, notre problème, c'est qu'on veut de la démocratie locale, on veut que la ville soit propre, avec peu de crottes de chiens si possible, un peu de sécurité pour nos enfants qui se promènent, et des bistrots joyeux pour boire des coups avec nos copains. On n'a pas besoin d'un musée gigantesque entre le Rhône et la Saône, quoi, tu vois.
Absolument. Et ce que je voulais dire aussi, si vous le permettez, c'est que c'est pas parce que les Verts, mais tous les élus, seront majoritaires dans les conseils municipaux, qu'ils sont majoritaires dans la ville, qu'ils sont majoritaires parmi les habitants de la ville, puisque souvent ils ont été élus avec moins de 40% des inscrits. Donc, attention à ça.
Ouais.
C'est pas parce qu'on est majoritaire au conseil municipal qu'on est majoritaire dans la ville.
Ouais. D'accord.
Très bonne remarque.
En deux secondes, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Grégory Doucet, ton nouveau maire Europe Écologie Les Verts, il est bien, il n'est pas bien, t'as confiance ou pas? T'as 10 secondes, après on coupe.
J'ai plus confiance en lui que dans le président de la métropole.
D'accord.
Ok. Qui est Bruno Bernard. Hein.
Bruno Bernard, ouais. Chef d'entreprise.
Merci Gilles. Salut et merci de nous avoir appelé de Lyon. Gilles. Bien évidemment, dans un instant, on va voir comment on vote.
RMC.
Brunet Neumann.
Le qui tu choisis?
Eh bien, c'est une victoire écrasante. Tu fais la grimace déjà, Laurent, tu le sens arriver?
Non, mais...
pour Eric qui remporte le qui tu choisis avec 80% des voix
c'est
aujourd'hui.
C'est une victoire de l'irréalisme.
Non,
c'est-à-dire,
mais
tout est faux. Tout est faux, mais les gens te croient.
Mais voilà. C'est pas vrai. Mais tu sais, si déjà 20% des Français, puisqu'il y a 20% des gens qui sont d'accord avec toi, font confiance dans les élus Europe Écologie Les Verts.
Ça veut dire que un écologiste peut être au deuxième tour de l'élection présidentielle.
Exactement, 20% c'est déjà extraordinaire.
Incroyable.
Parce qu'il y a 2-3 ans, tu n'aurais pas eu 20% des Français qui auraient fait confiance à des écolos pour diriger un exécutif municipal.
Bon les amis, dans un instant, procès Fillon, affaire Sarkozy, on vous pose une question, la justice veut-elle se payer la droite? On sera en direct dans un instant avec la correspondante de RMC au tribunal correctionnel de Paris pour savoir le jugement dans l'affaire Fillon. D'ailleurs, si jugement il va y avoir.
Oui, mais tu sais que François et Pénélope Fillon se sont rendus ce matin en fin
Bien
de matinée
sûr.
Au tribunal. Ils y sont là.
On attend votre opinion. Est-ce que oui ou non, vous avez le sentiment que la justice veut se payer la droite? C'est une sacrée question. Hein.
Ah bah,
Sarkozy,
pour
Fillon.
Moi, pour moi, elle est tranchée. La question.
D'ailleurs,
la réponse est oui.
On a oublié Balkany, dis donc.
Ouais.
On a oublié Balkany dans la liste des élus de droite. Mmh. Allez, les amis, on vous attend. 32-16. Et puis Brunet Neumann, on revient sur RMC. À tout de suite.
Il présente la même émission. Mais ils ne sont d'accord sur presque rien.
Midi 14h,
Brunet Neumann.
Salut les amis, justiciables ou pas, c'est Laurent Neumann.
Salut les amis de droite, de gauche, du centre, de nulle part ou d'ailleurs, c'est Éric Brunet.
Eh oui, on va parler du procès Fillon dans quelques instants. Gladys Laffitte de la rédaction d'RMC, elle est déjà au tribunal correctionnel de Paris et on ira la retrouver dans un instant. Et puis il y a eu l'affaire Sarkozy, cette fameuse enquête parallèle du parquet national financier qui a consisté à mettre sur écoute, à géolocaliser notamment des avocats. Et là, je te rejoins, Eric, je trouve ça, comme toi, absolument scandaleux. Et bah, du coup, on s'est dit, il y a une question à se poser ce matin.
Oui.
Est-ce que la justice veut se payer la droite?
RMC,
l'avis d'Éric Brunet.
Pour moi, aujourd'hui, c'est clair. Ce parquet national financier, créé par François Hollande et Christiane Taubira, n'avait qu'un seul but, harceler la droite, saborder Nicolas Sarkozy, saborder François Fillon, grâce à quelques magistrats amis et quelques soi-disant journalistes investigateurs amis. À l'époque, on me traitait de complotiste. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est le Watergate français. Je n'étais pas complotiste. Oh oui, oui.
RMC, l'avis de Laurent Neumann.
Eh ben voilà, carrément le Watergate à la française.
Oui.
Moi, je
pense. Non, mais t'imagines deux présidents empêchés. Ouais. Deux présidents empêchés.
Non, un ancien président et un futur.
Non, je te démontrerai que l'affaire qui sort pendant l'entre-deux-tours, Nicolas Sarkozy-François Hollande, avec Mediapart et quelques magistrats amis sur le financement libyen de la campagne de Sarkozy, procédait de la même intention.
Bon, alors ça, c'est l'avis d'Éric Brunet. Le mien, c'est extrêmement simple, les amis. Moi, il n'y a qu'une seule question qui vaille pour moi. Est-ce que François Fillon, est-ce que Nicolas Sarkozy ont, oui ou non, commis les faits qui leur sont reprochés? C'est la seule question qui vaille, les amis, et je me ferai fort pendant cette heure de te démontrer que le parquet national financier, qui a très mal agi dans le cas de Nicolas Sarkozy, et je suis d'accord avec toi, et bien pourtant ce parquet, il est très utile.
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
Alors, procès Fillon, affaire Sarkozy, je vous rappelle la question. La justice veut-elle se payer la droite? Éric et Laurent ne sont pas sur la même ligne. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est le moment de voter. Et pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Éric et Laurent, la page Instagram RMC Off et sur rmc.fr et l'application RMC.
Alors, je vous l'avais promis, on est avec Gladys Laffitte. Bonjour Gladys.
Ça marche.
Vous êtes au tribunal correctionnel de Paris. Dans quelques minutes, c'est le délibéré de l'affaire Fillon, le jugement que tout le monde attend. Mais Gladys, il y a un problème, il y a une vraie inconnue pour ce début d'audience.
Et oui, et on se demande tous ce qui va se passer ici. Il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup de journalistes, vous l'imaginez, mais aussi beaucoup de public, parce que le jugement pourrait intervenir comme prévu aujourd'hui, mais ce n'est pas évident, parce qu'a priori, l'audience va commencer par une prise de parole des avocats de la Défense. Ils ont demandé la réouverture des débats mardi dernier. Pourquoi ? Eh bien, parce que le 10 juin dernier, devant la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice, l'ancienne chef du parquet national financier, Éliane Houlette, elle a fait état d'une présence communication hiérarchique du parquet général pour faire remonter des informations concernant l'affaire Fillon en 2017. Et puis, elle a aussi parlé d'un différend procédural sur la date d'ouverture de l'information judiciaire dans l'affaire Fillon, 2 mois avant le premier tour des élections présidentielles. Donc Emmanuel Macron, lui, il a saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Le tribunal pourrait donc attendre que le CSM se penche sur ce sujet-là pour rendre son jugement. Il peut aussi décider d'accéder à la demande de la défense et donc de rouvrir les débats sans que l'on sache vraiment quand il pourrait avoir lieu. Mais si cette demande est rejetée, eh bien le jugement sera bien rendu aujourd'hui. Et pendant l'audience, François Fillon et ses avocats, ils avaient dénoncé déjà une instruction à charge. Ils avaient même avancé la théorie du complot pour le faire tomber politiquement à quelques mois de l'élection présidentielle.
Mmh. Juste pour rappel, Gladys, qu'est-ce que l'on reproche précisément aux époux Fillon et qu'est-ce qu'ils risquent ?
Alors, la question ici, c'est est-ce que oui ou non Pénélope Fillon a bénéficié d'un emploi fictif, d'abord comme assistante parlementaire de son mari sur plusieurs périodes qui comprennent 1998 à 2013, puis comme assistante parlementaire de Marc Joulot, et en tout, elle aurait gagné plus d'1 million d'euros en termes de salaire. Donc pour le PNF, pas de doute, ils sont coupables tous les trois, et ils ont donc requis à l'égard de François Fillon 5 ans de prison, dont 2 fermes et 375 000 euros d'amende, plus 10 ans d'inéligibilité. À l'encontre de Pénélope Fillon, 3 ans avec sursis, 375 000 euros d'amende aussi, et contre Marc Joulot, 2 ans avec sursis et 20 000 euros d'amende. Mmh. Ils ont donc comparu pour détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique et abus de biens sociaux. Évidemment, la défense avait plaidé la relaxe pendant l'audience.
Il faut quand même parler, parce que 1 million, c'est un chiffre important, mais ça porte sur des années, partant de 1986 jusqu'au début des années 2010, donc voilà.
C'est ses salaires.
C'est les
salaires qu'elle a touchés.
D'argent qui n'était pas dissimulé d'ailleurs. On pouvait accéder librement aux revenus de Pénélope Fillon.
La question,
simplement,
est-ce que c'est un détournement de fonds ou pas ?
Voilà, c'est ça.
De fonds publics, voilà. En l'occurrence.
Je rappelle que l'avocat a produit 34 témoignages, l'avocat des Fillon, qui témoigne de la réalité du travail de Pénélope Fillon. Il faut le dire, parce que...
Pour 25 ans.
Oui, mais
c'est pas beaucoup. Hein.
Je sais pas. Toi, tu juges, apparemment,
tu dois être
très informé. Mais comme les journalistes ne disent jamais ça, moi, je le dis, il y a eu 34 témoignages extrêmement étayés, prouvés, démontrés, avec derrière les témoignages des éléments qui les corroborent, qui témoignent du fait que Mme Pénélope Fillon travaillait. Voilà.
Et Gladys, oui,
vous d'ailleurs, êtes... une demi-journée d'audience avait été rajoutée pendant les débats, justement pour permettre à la défense de pouvoir montrer ces témoignages, les lire, etc.
Merci pour cette précision, Gladys. Vous êtes aux portes de la salle du tribunal. Évidemment, vous nous rappelez dès que le délibéré tombe ou si effectivement le jugement est reporté. Ouais. On vous attend évidemment.
Normalement, c'est quelle heure, Gladys? C'est à 13h30 normalement.
Alors l'audience est censée démarrer à 13h30, donc normalement avec une prise de parole des avocats, et puis on verra ce que le tribunal décide, soit de délibérer pour accéder ou non à la demande, soit de rendre son jugement instantanément.
En tout cas,
un peu le flou en termes de timing.
En tout cas, avant la fin de Brunet Neumann sur RMC. Allez, on sait quelles sont les positions d'Éric Brunet, quelle est ma position, on sait comment vous pouvez voter, c'est l'heure d'aller au 32-16.
RMC, Brunet Neumann,
32-16.
Et on est avec Loïc qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour Loïc,
bonjour,
bienvenue sur RMC.
Bonjour Eric, bonjour Laurent.
Salut.
Alors toi, tu en penses quoi ? Est-ce que tu crois que la justice n'est composée que de vilains magistrats de gauche qui veulent se payer la droite ?
Personne n'a dit ça.
Déjà, je vais dire bonjour Laurent l'inquisiteur.
L'inquisiteur, déjà. Carrément.
Ouais, non mais il faut arrêter un petit peu 2 minutes là. Ce sont des magistrats, des hauts magistrats sont nommés par l'Élysée. Déjà, première chose, donc déjà, ça ne peut pas être objectif.
Non, pas par l'Élysée. Pas par l'Élysée. Ils sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature après avis de la chancellerie.
Je suis désolé. Oui. En ce qui concerne Éliane Houlette, la patronne du parquet national financier, qui est l'auteur, qui est cette juridiction spéciale, je rappelle que dans toutes les démocraties, on supprime les tribunaux spéciaux. Mais bon, là, on en a créé un. Bon, une juridiction.
Tu me laisseras une seconde pour t'expliquer pourquoi. Pourquoi ce parquet national financier est indispensable.
D'accord. Elle a été nommée par Christiane Taubira, sélectionnée, casting,
etc. Comme tous les parquetiers depuis 40 ans.
J'entends bien, mais tu étais en train de dire que ça n'a pas été nommé par Hollande.
Non, c'est pas Hollande qui l'a nommé.
C'est pire, elle a été nommée par Taubira. Je dis bien, c'est pire.
Loïc, alors, vas-y. Madame Taubira, Laurent, Madame Taubira, pourquoi elle n'est pas en procès pour... elle a tué des gens. Elle a demandé aux familles des gamins qui ont été assassinés à Rouen parce qu'on a laissé dehors un mec qui était censé, il sortait de prison, qui était censé être reconduit à la frontière, qui avait perdu ses papiers parce qu'il avait fait des crimes, des délits et tout ça à Rouen.
Je ne sais pas de quelle affaire tu parles, pardon, c'est très important ce que tu viens de dire. C'est très important ce que tu viens de dire. Je t'ai écouté, écoute-moi juste une seconde. Je ne sais pas de quelle affaire tu parles, mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que Christiane Taubira n'a tué personne. Voilà.
Je peux pas te laisser dire ça, je suis désolé.
Non, il y a des gens qui ont été assassinés. Loïc, tu peux critiquer la politique menée par Taubira, tu peux dire ce que tu veux. Non. Moi, Laurent Neumann, je peux pas te laisser dire à l'antenne qu'elle a tué qui que ce soit.
Attends, là,
Monsieur Cahuzac et compagnie, ça a été prouvé. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont été reclassés. Madame Buzyn qui a fait.
Cahuzac n'a pas été recasé, pas du tout. Il a été condamné à une peine extrêmement grave. D'ailleurs, certains disent qu'il a été trop condamné pour les faits qu'il a commis. Moi, je trouvais que c'était parfaitement juste en l'occurrence. Je peux pas te laisser dire qu'il a été recasé. Il peut même pas exercer son métier de médecin.
Il est en Amazonie, je sais pas où, parce qu'il se plante.
Pas du tout, il est en Corse.
Il est parti en Guyane dans le cadre du Covid-19 pour exercer une mission pour soigner, je crois, des gens. Je sais pas si ça avait été accepté, mais il avait demandé à partir en Guyane.
Ce que je voudrais dire, la présomption d'innocence quand même pour Sarkozy et puis Fillon. Présomption d'innocence. Par contre, quand j'entends des gens comme toi, Laurent ou Monsieur Barbier, qui déglinguent sans objectivité la droite.
Comment ça, je déglingue sans objectivité la droite?
Exemple de la gauche qui est lamentable. La Cour des comptes vient dire que Madame Hidalgo fait n'importe quoi, que Madame Hidalgo surendette Paris et machin. Elle est réélue. Il n'y a personne qui lui dit stop.
Tu as parfaitement raison, mais Loïc, il mêle des choses qui n'ont rien à voir. Hidalgo, en l'occurrence, c'est la Cour des comptes qui critique sa gestion de Paris. Très bien, tout ça est vrai. Pardon, si tu veux des vrais exemples, prenons-les. Patrick Balkany, qui a été condamné deux fois, a été réélu et parfois même au premier tour.
C'est pas normal non plus.
Tu ne prends que des exemples de gauche, donc je t'en donne quelques-uns de droite si tu veux.
Tu prends que des exemples de droite parce que Madame Hidalgo n'a été condamnée à rien.
Le sujet c'est pas ça, les amis. Le sujet c'est un fait qui est qu'on connaît, c'est que François Hollande, au milieu de son quinquennat, va souhaiter inventer un système pour nuire à la droite, mais pas à la droite, pas aux petits députés, pour empêcher ses éventuels rivaux, parce qu'à cette époque-là, François Hollande pensait qu'il serait candidat à sa réélection, d'émerger. Donc il fallait qu'il se venge.
Je laisse dire ça,
on a reçu jeudi, mesdames, messieurs, vous pouvez podcaster l'émission que nous avons fait jeudi dans Brunet Neumann, notamment la deuxième heure, avec François Léman, cet ancien juge, désormais avocat, avec Tuc-Duel Denis également, qui a suivi les Fillon. Et aujourd'hui, ce qui semble le plus probable, c'est qu'il ait inventé ce tribunal politique, qui est le PNF, pour s'occuper officiellement des affaires. L'objet du PNF, c'était s'occuper des histoires financières complexes. Or, il va s'occuper de l'affaire Fillon, qui est, du point de vue financier, parfaitement simple et limpide. C'est des salaires qui sont même consultables sur Internet de sa femme. Donc c'est vraiment. Il n'a pas été inventé pour ça, le PNF.
Il y a ceux qui montrent la lune et ceux qui regardent le doigt. Ouais. Toi, tu regardes le doigt. Tu me parles du PNF et on parlera du PNF. Mais l'important, c'est de savoir si oui ou non François Fillon a détourné 1 million d'euros d'argent public.
Non, en démocratie, c'est pas ça qui m'intéresse.
Pardonne-moi, pour les millions de citoyens qui payent leurs impôts, l'important, c'est de savoir si cet argent public a été détourné ou pas, parce qu'il y a des centaines de députés, c'est un fait, ce que je te dis, c'est pas un commentaire, c'est pas ça pour moi.
Puisque des centaines de députés ont fait la même chose que lui, la question est de savoir pourquoi le parquet national financier ne peut pas, Eric, il y a une règle en droit, fondamentale, t'apprends ça en première année de droit.
On ne peut pas justifier ses propres turpitudes en invoquant celles des autres. Je suis désolé,
c'est pas moi qui les justifie.
Tu dis qu'il y en a 100 qui ont fait pareil donc il avait le droit de faire pareil.
Pas du tout. Je dis pas ça, moi. Moi, je dis, je me fous de savoir si Fillon est coupable ou pas.
Ah bah pas moi.
Je veux savoir pourquoi.
Pour moi, c'est fondamental.
Pourquoi pourquoi le parquet national financier le choisit lui et pas les centaines d'autres parlementaires? Pourquoi le parquet national financier reporte à la hiérarchie, à la chancellerie des informations sur Fillon? Pourquoi est-ce que la chancellerie, demande à madame Éliane Houlet de changer la procédure pour accélérer la mise en examen de François Fillon?
Pourquoi c'est l'État qui mène l'enquête?
Pourquoi ces gens nommés par François Hollande se mettent à accélérer la procédure? Pourquoi est-ce que le procureur général du parquet national financier, au début du procès, dit à Fillon, monsieur, ce que vous avez fait serait passible de la peine de mort sous l'ancien régime, ce qui est hallucinant, ça ne s'est jamais vu dans aucun procès. Voilà. Pourquoi cette sévérité, cette rapidité sur Fillon alors qu'il est candidat de la droite à l'élection présidentielle? Voilà.
Tu as posé 12 questions, j'y répondrai dans un instant. Vous restez avec nous, les amis, on ira voir, on va remercier Loïc qui nous appelait de Seine-Maritime, on ira voir Mehdi qui nous appelle des Yvelines. Et puis vous continuez à nous appeler au 3216.
Mais Eric, tu me répondras.
Eric, je te réserve un chien de ma chienne, il faut que je te réponde. D'accord. Allez, à tout de suite, Brunet Neumann sur RMC.
D'accord.
Midi 14h, Brunet Neumann, Eric Brunet, Laurent Neumann.
Ah, mesdames, messieurs, on parle du procès Fillon, de l'affaire Sarkozy. La justice veut-elle se payer la droite? Pour toi, Laurent, c'est non, hein?
Moi, la seule chose qui compte, c'est de savoir si les justiciables Fillon, en l'occurrence, s'ils ont commis les faits qu'on leur reproche ou pas. Moi, il n'y a que ça qui compte. S'ils sont relaxés, je dirais quel scandale. Quel scandale d'avoir fait tout ça pour ça.
Eh bien, moi, je dis que, bien évidemment, aujourd'hui, un contribuable ou un justiciable plutôt de droite, surtout si c'est un élu de haut niveau, il a tout à redouter des juges parce que les juges veulent se payer à la droite. D'ailleurs, comment est-il possible dans un pays comme la France qu'en 2012, souviens-toi, au moment de la présidentielle, un syndicat de juges appelle à voter officiellement contre Sarko au deuxième tour de la présidentielle?
Eric, ça en dit long.
Tu trouves pas qu'ils sont sortis de leur réserve, les juges, qui ont fait ça?
Tout à fait, je suis assez d'accord avec ça. Mais voilà. Cahuzac, qui a pris 4 ans de prison, dont 2 fermes,
non mais heureusement,
il n'a pas été aidé par les juges.
Mais heureusement,
Balkany, quand tu sais ce qu'il a fait, c'est pas normal qu'il soit condamné par les juges.
Ce que tu comprends pas, c'est que
relaxé, je dirais bah oui, tout ça pour ça.
Les juges continuent à faire leur boulot. Heureusement, tu pensais pas quand même que Cahuzac. Et d'ailleurs, on s'est payé Cahuzac parce que dans le gouvernement Hollande, Cahuzac, c'était Monsieur Budget, c'était Monsieur voilà, on savait qu'il était médecin.
C'est le type qui prélevait l'impôt et qui
demandait des impôts. On est d'accord, mais on trouvait qu'il était pas tellement de gauche, il fallait se payer Cahuzac, quoi. Tu vois, c'est pas, on se payerait pas François Ruffin, mais Cahuzac, ouais, il fallait se le faire.
Bon, je te répondrai sur le PNF, mais d'abord, on va au 32-16.
RMC, Brunet Neumann, 32-16.
Et on est avec Mehdi qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Mehdi.
Bonjour à vous deux.
Bonjour Mehdi.
Alors, toi, tu fais quoi dans la vie d'abord?
Je suis médiateur dans les transports en commun. J'avais eu Eric il y a à peine 2 semaines concernant les impôts du Covid-19.
Ah, ouais, c'est toi, il m'en a parlé.
Voilà, et toi, tu n'étais pas là. Mais exactement. Aujourd'hui, tu es là. Et Eric, ça, pour ne pas changer, je ne vais pas être d'accord avec toi aujourd'hui.
Argument.
Alors, moi, je t'explique une chose. Moi, si demain, je dois. Déjà, c'est pas normal que ça ait mis autant de temps, d'accord? Moi, je trouve pas ça logique. Parce que moi, si demain, je suis convoqué à la justice, on va pas me dire tu passes dans 3 mois, dans 4 mois, on va me dire tu passes demain, point barre. Ensuite, moi, cette affaire-là, c'est pas une question de couleur politique.
Tu trouves que ça a mis du temps, l'affaire Fillon?
Quand même.
C'est vrai qu'on va avoir le jugement 3 ans après.
Quand même, Eric, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre, excuse-moi du terme, pour des imbéciles. Mais là, ça fait quand même, comme il dit Laurent, ça fait 3 ans. Moi, je trouve que c'est pas normal.
Tu disais, Mehdi, c'est pas un problème d'être de droite ou de gauche.
Non, parce que moi, je vais te dire, moi, de couleur politique, moi, je suis plutôt pour du côté Mélenchon, d'accord. Déjà, par rapport aux élections d'hier, je suis content de la percée des Verts, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais si ça aurait été quelqu'un de la France insoumise qui était accusé de quoi que ce soit, je dirais la même chose, je dirais, il doit être jugé, d'accord. Quand on fait une bêtise, on doit être jugé. Si on n'a rien fait, qu'on n'a rien à se reprocher, on vient, on s'explique. Et puis voilà, la justice, elle sera rendue, voilà. Depuis tout à l'heure, j'entends des gens, là, qui passent à ton antenne, là, qui sont en train de descendre des gens de la gauche. Mais tous ces gens-là qui passent à l'antenne, ce sont, à mon avis, des électeurs de François Fillon. Parce que pour parler de cette manière, mais c'est pas possible. On est en train de voter pour des mafieux. En fait, il n'y a rien qui change.
Fillon, c'est un mafieux.
Bah pour moi oui, effectivement. Mmh. Enfin, après,
alors moi je vais te dire ce que je pense. Toi qui es électeur de Mélenchon, je vais te dire ce que je pense. Moi je pense que dans ce pays, et pourtant je suis pas un complotiste, je pense que il y a des proches du pouvoir. Je pense par exemple à Monsieur Bayrou. On en est où des problèmes de Monsieur Bayrou qui devait être ministre il y a 3 ans, qui ne l'a pas été pour des histoires d'assistants parlementaires. Là, lui, là, son affaire n'a pas du tout progressé. Lui, bah, tout
lui
va bien.
Il est obligé de quitter le gouvernement.
Voilà.
C'est bon exemple. Alors, il est obligé de quitter le gouvernement.
Je sais bien.
Bah donc.
Mais sur le plan judiciaire, rien du tout. Mais tout le monde
est normal.
Alors je te signale qu'il est dans la même
Mélenchon,
affaire.
Alors que Mélenchon, tu veux qu'on en parle de la perquisition qu'il y a eu chez Mélenchon? Moi qui suis un ennemi politique de Mélenchon, je trouve ça dégueulasse. Ils ont débarqué à 70 flics au siège de Mélenchon. C'est n'importe quoi. Marine Le Pen, dès qu'elle fait un truc, elle s'en prend plein les naseaux.
Eric, pardon, tu peux parler fort et prendre le micro pour toi tout seul. C'est pas parce que tu énonces des contre-vérités que tu as raison.
Ah,
pardon,
70 flics.
Tu viens de citer Bayrou et Le Pen dans la même phrase, d'accord? Pour dire deux choses différentes. Bah non, manque de bol, Bayrou et Le Pen, ils sont dans la même affaire. Et pour Marine Le Pen aussi, ça traîne depuis 3 ou 4 ans. Pareil. Tu parles de deux choses différentes. Tu parles de l'affaire des comptes éventuellement truqués de sa campagne présidentielle. Et là, on parle de l'affaire des assistants parlementaires. C'est deux sujets différents. Bayrou et Le Pen, c'est la même affaire. Et ça dure depuis autant d'années pour l'un comme pour l'autre. Donc ta théorie, elle tombe à l'eau. Voilà. Il n'y a pas Bayrou qui est bien traité.
Il n'y a rien.
Marine Le Pen qui est mal traité.
Il a été convoqué. Bayrou, il a été convoqué. Non, elle a été convoquée. Ça a avancé.
Mais Bayrou aussi.
Mais justement, excusez-moi, monsieur, mais moi justement, par rapport, tu parles de Le Pen, mais Le Pen, est-ce que tu trouves ça normal que lorsqu'on t'envoie une convocation chez la police, tu n'y vas pas parce que tu as un mandat de politicienne ou je sais pas quoi, tu n'y vas pas, alors que nous, simples citoyens, mais si nous, on n'y va pas, tu sais ce qui se passe, on vient nous chercher à 6h du matin chez nous. Même qu'on ait fait ou qu'on ait rien fait du tout, on vient nous chercher, quand on nous dit de passer au tribunal, on ferme notre bouche et on y va. Nous, les simples citoyens, nous, on n'a pas le pouvoir. On aimerait bien être à leur place, nous, toucher du pognon par-ci, toucher du pognon par-là. Parce que là, l'affaire Fillon, là c'est, on lui reproche quoi? On lui reproche un emploi fictif ou des choses comme ça. Mais s'il dit que devant tous les médias, il vient et dit « je n'ai rien fait », ok? Bah alors tu vas devant le tribunal, je t'explique, si tu n'as rien fait, tu seras acquitté et voilà, tu seras lavé de tout soupçon.
Non mais c'est terminé, voilà un homme qui portait les espoirs de la droite, on a foutu sa vie en l'air, son existence en l'air,
non,
pour des sommes... Attends, je peux parler ou pas? Je peux parler ou pas? Je peux parler ou pas? Non, je sais, c'est la théorie du documentaire de police...
Non,
je m'énerve, parce que ce qu'on fait à François Fillon depuis 3 ans est scandaleux. Et toi, quand tu me parles, Mehdi, tu es victime de la propagande médiatique et judiciaire...
Ah, c'est moi, ça.
Non, qui... Mais non, c'est pas toi, mais c'est tout le monde... Les soi-disant investigateurs d'Avet, L'Homme, etc., qui ont bien investigué sur l'affaire Fillon. Enfin, c'était pas compliqué d'investiguer. Encore une fois, tous les bulletins de salaire de sa femme étaient en vente libre, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils étaient faciles. Mais en revanche, tout le monde s'est gardé d'investiguer sur la soudaine célérité, rapidité de la justice.
Chapitre entier sur le livre de David.
Ah ouais, t'as raison. Question. Et oui, nous reconnaissons que la justice a été un peu rapide. Personne n'a investigué sur les raisons qui ont conduit certaines personnes au sein de l'entourage de François Hollande à surveiller de près les hommes de droite, en particulier François Fillon. Voilà, personne n'a investigué là-dessus.
Tu prends cher en honoraire d'avocat, Eric.
Arrête, je suis scandaleux. Je suis scandalisé par le fait que les grands journalistes investigateurs et donneurs de son qu'il y a à Mediapart et au Monde n'aient pas investigué sur la justice.
Mais ils
ne sont pas allés poser des questions à Éliane Houlette, à ces magistrats qui ont été nommés sous Hollande par Taubira.
Mais c'est faux. Tous les journalistes ont vu Madame Houlette avant de faire
et encore une fois,
c'est faux.
Tous les grands magistrats te disent le PNF n'avait pas à intervenir dans l'affaire Fillon, qui n'a rien à voir avec tout
ça. Très important, parce que je t'ai promis de te répondre sur le PNF.
Vas-y.
Alors là, c'est très important.
Vas-y.
D'abord, moi, je pense qu'un parquet national financier est indispensable. Avoir des magistrats spécialisés dans un domaine où l'expertise est absolument nécessaire, c'est fondamental.
Oui, mais il faut des...
Ah non, mais attends, laisse-moi, je t'ai écouté.
Non, mais il faut des spécialistes de la pédophilie, il faut des spécialistes de tous les maux de la terre.
pardon.
Il n'y a pas un parquet à part pour les pédophiles.
Alors, Eric, pardon, parce que tu ne connais pas le sujet. Dans la plupart des démocraties occidentales qui nous entourent, si, il y a des magistrats spécialisés, pour une raison extrêmement simple, c'est que lutter contre la criminalité en col blanc, c'est extrêmement compliqué. Et oui, il faut des magistrats spécialisés. Et si pendant tant d'années...
Pas un parquet spécial.
Si pendant tant d'années, des délinquants en col blanc ont échappé à la justice, et entre autres des responsables politiques, c'est justement parce qu'il n'y avait pas de magistrats spécialisés. Deuxièmement, c'est pas à toi que je vais apprendre que la grande criminalité financière, elle est totalement internationalisée. Oui. Dans toutes ces affaires, il y a des montages absolument incompréhensibles pour le commun des mortels. Donc, un parquet national financier, c'est indispensable.
Non. Des juges spécialistes, pas un parquet spécial.
Bah si, il y a des magistrats spécialisés.
Il y a des magistrats spécialisés.
Non, mais ça s'appelle le parquet national financier parce qu'il y a des juges spécialisés.
L'affaire Fillon. Et à l'affaire Fillon, tu penses que c'est des systèmes internationaux avec les Panama Papers?
Mais l'affaire Cahuzac,
rien du tout, c'est pitoyable. C'est les bulletins de salaire de sa femme, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il y avait besoin d'un parquet financier spécialisé avec des connexions mondialisées?
Tu refais le match après avoir vu le résultat. D'ouvrir l'information.
Si, avant de statuer, ils ont bien vu qu'il s'agissait de savoir si sa femme travaillait vraiment ou pas. Voilà.
Mais le parquet financier s'est déchargé de l'affaire très très vite puisqu'il y a eu une instruction qui a été ouverte. Si l'enquête avait été menée par le parquet, tu dirais c'est un scandale. D'ailleurs, je trouve comme toi que écouter des avocats dans l'affaire Sarkozy, c'est un scandale. Mais dans l'affaire Fillon, le parquet s'est déchargé de l'affaire pour ouvrir une instruction. Ouais. Ça a été confié à des juges d'instruction. Donc là, il n'y avait plus de soucis.
Bon, alors très bien. Alors, ok, parfait. Donc Fillon, vraiment, est un grand méchant. Et le parquet national financier.
Non, il est présumé innocent.
Revenons sur Sarkozy. Sarkozy, dans l'entre-deux-tours, on va inventer l'histoire. Enfin, on va dire, juste dans l'entre-deux-tours. Sarkozy-Hollande, on sort l'affaire du financement de sa campagne par le dictateur libyen Kadhafi. Tout le monde y croit. Moi, j'ai autour de moi des gens de droite.
Tu penses sérieusement que Nicolas Sarkozy a perdu la présidentielle contre Hollande à cause de ça?
Oui.
Tu es sérieux là?
Oui.
Donc tu es le seul journaliste.
Il perd à 49-51.
Non, mais tu es le seul journaliste de la place politique de Paris et de la place de Paris qui pense ça. Oui. Mais tu as le droit de le penser.
Qu'il y avait des anomalies dans l'affaire Fillon. On me traitait de complotiste. Et maintenant, les gens me disent que j'ai raison.
Non, alors, pardonne-moi. Tu parlais pas d'anomalie. Tu parlais de cabinet noir comme tous les autres.
Il y a eu un cabinet noir.
Je vais te dire. La meilleure réponse démocratique, c'est ce qui s'est passé ce week-end. Hier, Marc Joulot, maire de Sablé-sur-Sarthe, a été battu alors qu'il était maire depuis 12 ans. Et les électeurs, ils ont choisi. C'est pas la justice qui a viré Marc Joulot de la mairie.
Ce sont
les électeurs.
Même moi, j'aurais pas voté pour lui.
Ce sont les électeurs. Fillon se serait présenté, t'aurais voté pour lui.
Bruit, cette propagande médiatique,
la preuve,
etc.
C'est qu'à Levallois, on a voté et revoté pour Balkany malgré
les gens de la Sarthe, c'est des gens de la ruralité.
Tu es insupportable, tu refuses d'avoir peur, tu veux toujours avoir le dernier mot.
Avec cette ruralité, ils n'ont pas eu le courage de voter Joulot.
On va remercier Mehdi qui nous a appel des Yvelines. Vous continuez à nous appeler les amis au 32-16 et Brunet Neumann. Calmement, on revient sur RMC.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
Et on a beaucoup de messages, évidemment. À chaque fois, Eric, qu'on traite de l'affaire Fillon, d'ailleurs, ou de la justice en général, c'est incroyable le nombre de messages qu'on a. Anthony, salut Anthony.
Bonjour à tous, à tous les trois. J'ai d'abord ce petit message de Julien, un petit commentaire qui nous dit... Peut-être que les élus de droite sont dans des affaires comme celle-ci parce qu'ils sont de droite ou parce qu'ils ont fait des conneries et qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac. C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser. Peut-être que la philosophie de droite, c'est de tricher pour s'enrichir. Ouais. Voilà peut-être pourquoi on retrouve plus élus de droite dans toutes ces petites affaires.
Un message d'Olivier sur Direct Studio qui nous dit « Les juges sont politisés, d'autant plus qu'ils dépendent du pouvoir politique pour leur carrière, donc c'est normal de vouloir se payer un politique de premier plan. Mais Fillon a fait payer sa femme à ne rien faire avec de l'argent public, quel que soit le juge. » C'est punissable, nous dit Olivier.
Tu sais quoi, je suis d'accord avec les deux assertions. Oui, je trouve scandaleux que la chancellerie gère les carrières des magistrats et pire que ça, contrôle même l'inspection des services. C'est insupportable.
Midi 14h.
Brunet Neumann.
Éric Brunet.
Laurent Neumann.
Oui, Laurent, pendant la pub, il y a quelques secondes, alors que nous sommes en pleine émission consacrée à Fillon avec cette question, procès Fillon, affaire Sarkozy, est-ce que la justice veut se payer la droite? Eh bien, justement, est tombée une information majeure.
Oui, François Fillon reconnu coupable de détournement de fonds publics, Pénélope Fillon reconnu coupable de complicité de détournement de fonds publics. Ça veut dire, un, que le tribunal a sans doute rejeté la demande de supplément d'information des déposé par les avocats de François Fillon. Alors, on ne connaît pas encore quelles sont les peines qui vont être prononcées. On connaît les réquisitions. Gladys Laffitte, qui est dans la salle du tribunal. Alors,
il peut faire de la prison ferme ?
Alors, c'est possible, puisque pour François Fillon, c'était 5 ans de prison requis, dont 2 fermes. Alors que pour Pénélope Fillon, c'était 3 ans avec sursis. Et pour Marc Joulot, 2 ans avec sursis. Mais pour le moment, on n'a pas encore les peines prononcées, mais ils sont reconnus coupables
oui. Pour l'instant, la porte
tous les trois,
la porte du tribunal est fermée, elle est close, donc les Fillons sont à l'intérieur avec notre journaliste d'ailleurs, Gladys Laffitte, journaliste
d'RMC. Et avant de prononcer les peines, la présidente du tribunal est en train de donner les motivations du jugement qu'elle s'apprête à rendre et donc des peines qu'elle va prononcer.
D'accord. Bon. Dès que Gladys Laffitte, qui est sur place à RMC, à côté des Fillons, sur place, pardon, dans le tribunal à côté des Fillons, dès qu'elle nous appelle, on interrompra Brunet Neumann et on la prendra au téléphone. En attendant, si t'es d'accord, mon Laurent, on va au 32-16.
Allez, la justice veut-elle se payer la droite ?
RMC, Brunet Neumann, 32-16.
Et on est avec Florian, qui est dans le Haut-Rhin, en Alsace, à Eggenheim. Bonjour Florian.
Salut Laurent. Eric.
Tu as vu, Florian, Eric a réussi à appris depuis une semaine à prononcer Eggenheim.
Ouais.
Oui, là, c'est vraiment parfait.
Tu vois, la dernière fois, tu ne savais pas le dire, mais là, tu l'as bien dit.
J'ai progressé.
Tu as progressé.
Ouais, je peux même te parler en alsacien, si tu veux, pendant 20 minutes.
Bon. Allez, Florian, dis-nous, tu es plutôt Brunet ou plutôt Neumann ?
Alors, sur ce coup-là, je suis vraiment 100% d'accord avec Eric.
Argument.
Pense que la justice a tué Sarkozy et Fillon. Alors, depuis le début de l'émission, vous avez parlé de Fillon. Moi, j'aimerais un petit peu revenir sur les affaires Sarkozy, parce que ce que vous avez un petit peu oublié de redire, c'est que pour la campagne présidentielle de 2012, il y a eu une affaire autre que celle de Kadhafi qui a eu beaucoup d'impact sur le résultat, c'est l'affaire Bettencourt. Pendant des mois et des mois, on a dit que Sarkozy avait escroqué Madame Bettencourt, lui aurait escroqué des sous pour la campagne présidentielle.
Fallait voir Davet et l'homme, qui sont ces journalistes anciens de Mediapart, qui sont au journal Le Monde aujourd'hui, et qui se sont fait une spécialité d'enquêter sur les Sarko. Ils allaient de plateau de télé en plateau de télé, et de radio, on les a reçus, nous, bien des fois, à RMC.
Mais je croyais que t'aimais l'investigation, toi. Ouais.
Oui, donc c'était très intéressant. Et donc, bien évidemment, il donnait, qu'on le veuille ou non, une image de Sarko. Enfin, moi, j'imaginais Sarko en train d'aller chez cette dame âgée et se frotter les mains, lui dire « Alors, donnez-moi ma mallette d'argent. » Enfin, on avait la représentation
et
visuelle.
Alors, Florian, tu en tires quoi comme conclusion ?
Et donc, résultat des courses dans l'affaire Bettencourt, Florian
Déjà, il y a eu un non-lieu. Et pendant toute la campagne, on n'a parlé que de ça. Et ensuite, Mediapart, qui pour moi est complice de la justice, avec du Plenel, qui est tout sauf un journaliste, mais plutôt un militant de gauche, et qui nous a sorti cette affaire Kadhafi pour le présupposé financement de 2012. Alors là, ces deux affaires combinées ensemble, ça a tué la campagne de Sarkozy, et je pense que c'est 1,5 point d'écart entre Hollande et Sarkozy, c'est vraiment dû à ces campagnes nauséabondes menées par Mediapart.
Ouais, totalement d'accord.
Juste un mot, Florian. Moi, je crois au contraire que si les affaires qui touchaient Sarkozy avaient joué un rôle, il n'aurait pas été aussi proche de François Hollande, en l'occurrence en 2012. Mais c'est mon avis. Je pense exactement le contraire de toi. En revanche, juste un mot sur ce que tu viens de dire sur Mediapart. Donc, Mediapart serait un média de gauche, qui serait donc plus ou moins complice d'un éventuel cabinet noir au sommet de l'État pour faire tomber les gens de droite. Mais pardon, qui a sorti l'affaire Cahuzac? Cahuzac, c'était un proche de François Hollande.
Ils sont trompés,
c'était
surtout,
le ministre du budget.
Sur Cahuzac,
ils se sont trompés.
Mais parce que dans les détails.
Mais c'est eux qui ont sorti l'affaire.
Ils ne se sont pas trompés.
C'est Mediapart qui a sorti l'affaire.
Oui, je sais, mais.
Et qu'est-ce que tu racontes?
Sur toutes les affaires, il y a des.
Et Cahuzac, il n'était pas de droite, que je sache.
Mais Cahuzac, il fallait l'abattre.
Ah bon?
C'était un homme qui n'était pas estimé à gauche comme étant
c'est l'exception qui confirme la règle.
Oui, très bien. Tu sais très bien que quand Aquilino Morel, l'homme qui écrivait les discours de Hollande, même chose, c'était quelqu'un.
Lui, il n'avait rien fait de mal. Il avait juste fait cirer ses chaussures par quelqu'un de l'extérieur.
Ils l'ont détruit.
Donc ils l'ont détruit pourquoi ? Il n'était pas de droite.
Ils l'ont détruit pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ils ont considéré que Hollande menait une politique qui n'était pas conforme à leur perception à eux de ce que devait être une politique de gauche, et ils se le sont payés. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la justice travaille main dans la main, parce que quand le canard enchaîné ou bien Mediapart, après tout, ils ont le droit, publie des choses sur Sarkozy ou bien sur Fillon, il faut bien qu'il y ait quelqu'un au sein du ministère de la Justice qui diffuse des informations tous les deux ou trois jours. Souviens-toi, Fillon, c'était tous les deux ou trois jours. Dans les affaires Sarkozy, c'est tous les deux ou trois jours qu'il sort comme ça un petit scoopiné à se mettre sous la dent.
Ça s'appelle la liberté d'informer. Deux, je te rappelle qu'il y a la protection des sources. Ouais. Et trois, dans les affaires judiciaires, aussi, et il m'est arrivé d'en couvrir beaucoup par le passé.
Il y a aussi la présomption d'innocence.
Présomption d'innocence. Et je vais te dire, même dans un instant, quand on saura à quoi sont condamnés les époux Fillon, ils seront toujours présumés innocents parce que je t'annonce que leur avocat fera appel. Donc tant qu'il n'y aura pas le fin mot judiciaire de cette histoire, ils sont toujours présumés innocents. Tu vois, je le dis. Mais pardon, cette idée de grand complot ourdi avec l'aide d'un côté de Mediapart, de magistrats, d'avocats, de je ne sais qui,
mais
etc.
Enfin, tu sais très bien comment ça marche, à Mediapart.
Le sujet, c'est de savoir si les faits qu'on reproche à Fillon, à Sarkozy, à Cahuzac et à tous les autres sont vrais ou pas.
Non.
Ça, c'est important. Non. Pour les citoyens, c'est quand pas tu le sujet. Penses démocratie, c'est ça qui
c'est
est
pas
important.
C'est pas le sujet, je suis désolé. Des millions de personnes l'ont déjà eu depuis 3 ans, ce débat-là. On verra si la justice.
C'est toi qui ne tires pas compte de la présomption d'innocence.
Le deuxième débat.
Moi, je pense que Fillon est toujours présumé innocent.
Le deuxième débat, pour moi, qui n'a pas été assez traité, c'est quel a été le rôle de la justice, des politiques et de certains journalistes soi-disant investigateurs. Se sont-ils donné la main pour avancer de façon clandestine et faire du mal aux candidats potentiels de la droite, Sarkozy, puis Fillon. Elle est là pour moi la question.
Donc pour toi, les faits sont importants aussi.
Les faits sont importants aussi.
Je suis content de te l'entendre.
Quoique, je t'avoue que dans ce contexte-là, j'ai de moins en moins confiance.
Un million d'euros, c'est pas grave.
C'est grave. J'ai de moins en moins confiance en ces juges. Hein, c'est facile de dire que l'argent a été volé, que Madame Pénélope Fillon ne faisait pas son travail. C'est facile parce que ça, c'est pas du palpable. Non, ça, c'est
ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Justice, c'est ou c'est vrai ou c'est pas vrai. On va remercier Florian et Eric qui nous a appelé.
Les avocats de Fillon ont donné 34 témoignages qui disent qu'elle faisait son travail.
T'as du mal à pas avoir le dernier mot.
Non, vas-y, je t'en prie.
Florian, on va le remercier. Il nous a appelé Degenheim. Dans un instant, on ira voir Lisa Marie pour savoir comment vous nous avez départagé, Brunet ou Neumann. Et puis, on vous emmène.
C'est pas déjà fini quand même.
Bah si, malheureusement, malheureusement c'est déjà fini.
Et Fillon est toujours enfermé à l'intérieur du tribunal.
Peut-être qu'on aura Gladys dans quelques instants, ou peut-être qu'elle interviendra dans le journal de 14h, on verra, on l'attend. Et dans quelques instants, c'est la tradition dans Brunet de Man, on prendra l'avion, on ira du côté de l'Afrique du Nord. À tout de suite les amis sur RMC.
Midi 14h, Brunet de Man, Éric Brunet, Laurent de Man.
Alors, procès Fillon, affaire Sarkozy, la justice veut-elle se payer la droite? Je rappelle quand même, pour information, que François Fillon vient d'être reconnu coupable de détournement de fonds publics, que Pénélope Fillon a été reconnue coupable de complicité de détournement de fonds publics, tout comme Marc Joulot, l'ex-maire de Sablé-sur-Sarthe, qui avait employé également Pénélope Fillon comme assistante parlementaire. C'est le moment de savoir, les amis, comment vous avez voté.
RMC, Brunet Neumann, le qui tu choisis.
Alors, procès Fillon, affaire Sarkozy, la justice veut-elle se payer la droite? Même si le tribunal a rendu son jugement, tu viens de le dire Laurent, bien vous êtes en majorité à partager l'avis d'Éric, 65% très exactement.
Wow. Non mais parce que c'est il y a deux choses différentes. Première question, est-ce que Fillon va être condamné ou pas? Très bien. Donc, s'il est condamné, si les faits sont avérés, c'est tout à fait condamnable. Mais deuxième question, est-ce que par ailleurs la justice a un rôle, tu sais pourquoi
Eric, ce résultat me fait de la peine.
Oui,
parce que ça voudrait dire, tel que la question était formulée, que deux tiers de ceux qui nous écoutent ne croient pas dans la justice de leur pays.
Ouais.
C'est extrêmement grave.
Ouais.
Extrêmement grave. Surtout quand on vient d'entendre le prononcé du jugement.
C'est pas le naïf.
Complicité,
pas le naïf.
Détournement de fonds publics.
Il y a eu le mur des cons, il y a eu le syndicat de la magistrature qui a appelé à ne pas voter Sarkozy. Enfin, tu vois, il y a quand même un contexte.
C'est marrant parce qu'il y a des sujets où tu me laisseras jamais avoir.
Mais vas-y, dis-le.
Allez, c'est parti. On a débattu, ils ont voté, c'est terminé. Je t'emmène au Maroc, mon petit ami.
RMC. Midi 14h, Brunet Neumann.
Mesdames, messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants le Français de l'étranger.
Vous venez d'atterrir à l'aéroport de Rabat, au Maroc, où nous attend l'ami Antoine. Salut Antoine, bienvenue sur RMC dans Brunet Neumann.
Salut Antoine.
Salam
Antoine. Qu'est-ce que tu fais à Rabat? Où es-tu dans Rabat? Fais-nous un petit peu la carte postale, raconte-nous.
Alors, je suis à Rabat depuis 20 ans et je suis en Médina de Rabat.
D'accord.
Juste à côté de la mer. Dans un riad, voilà. Donc je survole les toits de la Médina de Rabat.
Ah, c'est magnifique. Raconte-nous ces toits.
Capitale du Maroc.
Ah ouais. Non, c'est très beau l'image qu'on a là des
Rabat,
toits de
Rabat. C'est une ville à la fois traditionnelle et aussi moderne avec des tours, etc. Non?
Exactement. C'est une ville qui, les Romains sont arrivés 8 siècles avant Jésus-Christ. Une première ville romaine. Après ça, le 12e, la Casbah des Oudayas, la Tour Sainte, une ville qui a une histoire très très riche. Et puis effectivement, tu as raison, c'est une ville très moderne, la vitrine du Maroc moderne, avec le tram, avec une corniche, des terrains de sport partout. Enfin, c'est une ville qui a un dynamisme assez, assez impressionnant, puis une qualité de vie, parce qu'on est au bord de l'eau, au bord du fleuve.
Et il fait beau toute l'année. Antoine, si tu es depuis 20 ans à Rabat, tu y fais quoi ?
Alors, je suis hôtelier. Je m'occupe d'une très belle maison en Médina qui s'appelle Darshan, qu'on a transformée en hôtel urbain.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Parce que Dar, c'est la maison, et Shan, c'est quoi ?
Alors, Shan, c'est la maison haute. La maison haute.
D'accord.
La maison haute dans l'attention qu'on apporte à ses hôtes.
Ouais.
Voilà, c'est un terme. Je trouve qu'il sonne bien aussi, puis qu'il raconte bien l'aventure et le plaisir qu'on a à accueillir les gens et à vivre dans cette ville qui est vraiment incroyable, méconnue peut-être, mais assez géniale.
Tu offres juste le lit à tes invités ou il y a aussi la table et le couvert ?
Il y a la table, il y a le couvert, il y a les histoires, parce que l'hôtelier, c'est raconter des histoires aussi, et puis faire découvrir notre ville et les bons plans, tout ça. Le plaisir d'être hôtelier dans une ville qui s'y prête bien. Vraiment une très belle ville, on espère vivre.
Il y a un TGV au Maroc ?
On est à 1h20 de Tanger, du détroit de Gibraltar, de la Méditerranée et de Casa aussi.
D'accord.
Avec un développement vers le sud aussi après.
Alors moi,
TGV, hein, c'est le fameux TGV.
Le TGV, 1h20. 1h20 de Tanger, c'est bluffant, c'est une belle destination de week-end pour nous, pour vous, pour... Ouais.
Je connais Rabat et Tanger, et je t'avoue, Antoine, que j'ai un petit faible pour Tanger.
Oui, Tanger, c'est sublime, paraît-il.
Ouais, si on comprend, il y a une règle du jeu quand même, elle est pas évidente, cette ville. Premier abord, ça marche pas toujours, puis il y a une histoire très riche, et puis c'est vrai que la rencontre des deux continents, de la mer et de l'océan, elle est magique, quoi. Il y a une force, il se passe quelque chose, quoi.
Ouais.
C'est des villes qu'on adore. Puis il y a plein de petites villes aussi sur la route, sur cette façade océanique, là, qu'on connaît bien. C'est un coin peut-être un peu moins connu que certaines villes du Maroc, mais qui est vraiment exceptionnel à découvrir et à vivre.
Donc, t'es au bord de la mer, c'est l'Atlantique, Rabat, je dis pas de bêtises. Et alors, c'est plage, c'est quoi la vie de Rabat?
Alors, il y a la façade atlantique, donc il y a des plages, il y a une plage en ville où on surfe, d'ailleurs, c'est assez, ça peut être assez exceptionnel, c'est qu'on surfe au pied d'une casbah du 12e siècle. C'est la plage, c'est le fleuve aussi qui sépare Rabat de Salé.
Ouais.
On traverse en barque pour aller voir, pour visiter la Médère Sainte Salée, enfin pour se promener, pour remonter aussi toute l'histoire du fleuve. C'est des parcs, c'est une ville verte. C'est aussi une ville verte, c'est aussi une ville nature.
D'accord.
Pardon Antoine, la France te manque pas du tout ?
Pour être honnête, non. Pour être honnête, non. Il me manque de temps en temps un troquet, un truc, tu vois. Mais je suis très bien dans cette ville de Rabat, vraiment.
Il y a beaucoup de Français expatriés à Rabat. Hein.
Oui, si. Il y a une vraie communauté d'expatriés. Bah, c'est la capitale, donc il y a aussi beaucoup d'ambassades. Il y a les écoles françaises. C'est un carrefour.
Ouais.
Rabat, c'est une ville carrefour.
Bien.
Qui la rend aussi est petite parce qu'on est moins d'un million d'habitants. Voilà.
Merci à toi. On te souhaite une très très belle journée à Rabat, Maroc, où il fait beau aujourd'hui. J'en sais rien d'ailleurs. Oui, il fait beau ou pas ? Oui, non,
oui,
non.
Oui, oui. Il, fait,
il fait très très beau, il fait très très beau.
Bien, salut à toi, merci d'avoir été notre Français de l'étranger aujourd'hui. Il est 13h59, le temps pour nous de nous tourner vers, comment il s'appelle le petit là,
le grand, tu veux dire, le parce qu'il prend une tête à tous les deux, hein, ouais. Je te signale. Hein. C'est nous les petits. Hein. Salut Rémi.
Salut Rémi. Salut Eric.
J'ai croisé un de tes fans hier, un de tes fans.
Ah ben il y en a un. T'as eu la chance, t'aurais dû jouer au loto, il y en a deux en France.
Oui, ben il faut tomber dessus, voilà.
Tout de suite, on va parler du logement. Vous savez que c'est important, le logement, pour les Français, quand même.
Oui, t'as des banalités encore comme
non,
ça
non,
à
non,
balancer,
non.
Ouais,
j'ai un sondage IFOP. Ouais. Tu es au courant de ce sondage IFOP qui est paru ce matin ?
Il dit quoi ?
Tu vois, qui nous dit que contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce qu'on pouvait penser en raison de la crise actuelle, eh bien les Français ont la bougeotte. Ça marche en ce moment. On déménage beaucoup. Et est-ce que vous savez que les Français, contrairement à ce qu'on dit parfois, notamment Éric Brunet, ont la bougeotte ? Ils savent bouger. On déménage en moyenne 5 fois dans sa vie et c'est au-delà de la moyenne européenne.
Ouais.
Donc on va parler de logement.
J'ai fait 25, moi.
Donc il y aurait plus de mobilité qu'on ne le croit.
Exactement, et on va parler de logement surtout. C'est quoi le logement de vos rêves? Il serait où et il serait comment? C'est tout de suite sur RMC.